Et si on partait sur Europe 1, vous le savez, tous les jours, tout l'été, entre 16h et 18h, je vous emmène pour un grand voyage avec deux destinations, une en France, une au bout du monde, juste pour rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tout à l'heure, je vous emmènerai donc au Maroc. Après le flash de 17h, je vous emmènerai dans les souks de Marrakech, dans les montagnes de l'Atlas, avec des petites villes qui ressemblent presque à la Suisse. On n'imagine pas ça là-bas. Nous traverserons le désert dans un train du désert qui sait affronter les vents de sable. Nous parlerons de fez. Nous parlerons des propriétés très particulières de l'urine de chameau, qui est sous-estimée. Et tout à fait, vous serez étonnés. Et puis en première heure, tout de suite, une région française pour laquelle on adore égrener les clichés. Parce que ça fait un bien fou, ça sent bon la France, alors j'y vais. Ce sont les vaches broutant sous les pommiers, dans les champs verdoyants, les chaumières en colombage, les fromages crémeux et odorants, le Calvados, les plages du débarquement. Vous voyez que ça fait du bien. Nous allons bien sûr en Normandie.
Les vaches rousses blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie.
Vous avez dit que ça faisait du bien. Nous sommes en Normandie avec tous mes amis voyageurs. Nathalie Elal, auteure grande voyageuse, bonjour.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Emmanuelle Jarry. Alors, elle va être comme un poisson dans l'eau en Normandie. C'est notre gourmande de l'équipe. Bonjour Emmanuelle Jarry.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et puis Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet qui va nous resituer la Normandie.
Bah oui, écoutez, parce que ça se trouve face à la Manche. Ouais. Déjà, donc un très beau littoral, une côte découpée avec des falaises, vous avez dit, les fameuses falaises d'Étretat, mais il n'y a pas qu'à Étretat d'ailleurs. Beaucoup de très belles plages, des très longues plages avec un sable bien doré, comme je les aime beaucoup d'ailleurs. À l'intérieur des terres, un bocage très fertile. Le bocage, ce sont des prairies qui sont délimitées par des haies. C'est l'emblème, bien sûr, de la Normandie. Et puis, bien sûr, c'est une terre d'histoire et de culture. Beaucoup de ruines, de châteaux, d'abbayes. On retrouve tout ça. Il y a un très riche patrimoine rural. Quand même, cinq départements. Le Calvados, la Manche, l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime. Ça fait cinq, ça ?
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait confiance. Oui,
c'est ça, combien de doigts, Jean-Bernard ?
Merci Jean-Bernard. Nathalie est là, les grands hommes et grandes femmes de la Normandie.
Oui, alors d'abord un guerrier illustre, Guillaume le Conquérant, qui a été roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume Ier, et puis duc de Normandie sous le nom de Guillaume II, également appelé, alors c'est moins sympa, moins glamour, Guillaume le Bâtard.
Ah bon, pourquoi ?
Oui, bah, comme ça, c'était un bâtard. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Né à Falaise, dans le Calvados, au passage, un très joli château à admirer. Alors, il a passé sa vie, Guillaume, à se défendre contre ses ennemis en Angleterre ou sur le continent. Mais la Normandie, eh ben, c'est aussi une terre d'artistes, à commencer par des écrivains majeurs comme Gustave Flaubert, bien sûr, né à Rouen en 1821, Guy de Maupassant en 1850, à Tourville-sur-Arc. Et puis, il y en a un autre. Alors, il n'est pas né là-bas, mais c'est vraiment un écrivain de tout premier plan, évidemment lié à la Normandie. Eh bien, c'est Marcel Proust, auquel la ville de Cabourg doit beaucoup. Il y a beaucoup séjourné. Et d'ailleurs, elle apparaît, cette ville, de façon récurrente dans son œuvre, sous le nom de Balbec. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Il faudrait relire toute la recherche du temps perdu. Il faudrait peut-être 6 mois. Hein. En tout cas, la promenade de Cabourg porte le nom de l'écrivain. Et puis, il y a cette petite musique reposante. Eh oui, c'est encore un Normand qu'on la doit, Éric Satie, qui est né en 1866 à Honfleur. Et puis, à propos de musique, il y a aussi celle d'un film qui a fait le tour du monde, signé Claude Lelouch.
Ah oui.
Souvenez-vous.
Eh oui.
Un homme et une femme, vous vous souvenez, la musique de Francis Lai, et puis avec une chanson qui était interprétée par Nicole Croisy. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Lelouch a eu l'idée de son film un matin de septembre 1965, alors qu'il regarde simplement une femme qui joue au loin avec une petite fille sur la plage de Deauville. Et puisque nous sommes dans le cinéma, deux acteurs emblématiques plus proches de nous, Karine Viard, née à Rouen, et Franck Dubosc, oui, né au Petit Quevilly.
Absolument.
Et je salue notre réalisateur, Jérémy, qui vient lui aussi de Falaise, mais qui n'est pas un bâtard.
Qu'est-ce que vous en savez?
On le connaît, notre Jérémy.
Emmanuel Jarry, oui. La Normandie, voilà, vous allez être comme un poisson dans l'eau, c'est merveilleux.
Oui, alors moi, j'aime beaucoup cette région parce que vous savez, je suis bressane, donc le beurre, la crème, tout ça, ça me parle beaucoup. Mmh. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas chez moi et qui est en Normandie, c'est l'Yode, avec ce beau littoral qu'on vient d'évoquer avec Jean-Bernard. Mmh. Donc coquillages, crustacés, tout ça, très chouette en Normandie. Et puis, je vous parlerai aussi un peu de la cuisine à l'intérieur des terres qui est très intéressante.
Bon, on se retrouve tout à l'heure, bien sûr, pour évoquer tout ça plus en détail. Et puis, dans un instant, sur Europe 1, nous aurons pour découvrir notre chère Normandie un guide exceptionnel, un Normand de sang et de cœur, Michel Onfray. À tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Sur Europe 1, 2 heures de voyage tous les après-midi, sans aucune contrainte, sans frontières, sans virus, rien, juste pour le plaisir de rêver, de s'évader. Après 17h, je vous emmènerai dans un pays qui n'est pas si loin, mais qui nous emmène très très loin, le Maroc, aux portes du Sahara. Et puis là, tout de suite, vous le savez, nous sommes en Normandie, et j'ai le grand plaisir d'avoir en ligne un Normand de cœur, de sang, le philosophe et enfant du pays, Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Vous êtes né à Chambois, près d'Argentan, si mes infos sont bonnes. Vous vivez à Caen. Beaucoup de vos livres sont empreints de la Normandie et de votre enfance en Normandie, notamment le chemin de la Garenne, qui est un chemin qui, je crois, passe le long de votre village natal. Vous êtes aussi attaché que ça à la Normandie ?
Oui, qu'est-ce que c'est que cette expression aussi attachée que ça? Oui, 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 on ferait, ça veut dire donner la paix, c'est originaire du Danemark, il y a Onfroy, le Danois, qui est propriétaire d'Argentan au Xe siècle. Donc vous voyez, ça fait 10 siècles que je suis normand, et avec une origine viking, très précisément.
Ah oui, donc vous êtes un vrai normand viking, comme ceux qu'on apprend à l'école?
Oui, absolument, avec des casques, avec des avec cornes des de hache, et je bois de la bière dans le crâne de mes ennemis.
On n'en doutait pas un seul instant. Hein.
Ben oui, et je bois beaucoup.
Alors, vous êtes né en Normandie, vous vivez en Normandie, vous mourrez en Normandie?
Oui, j'espère bien que je serai aussi enterré en Normandie, j'ai prévu. Et il y a une espèce de fidélité comme ça qui fait que je ne m'imagine pas ailleurs. Donc je ne m'imagine pas vivre, travailler. Je ne m'imagine pas non plus ni mourir ni être enterré dans un autre endroit que cette terre de Normandie.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Il y a une espèce de viscéralité qui fait que, bon, après tout, quand vous êtes mort, et si vous êtes mort, je ne sais pas, dans n'importe quel endroit du monde, vous me direz à quoi bon être... voilà, mais c'est l'idée qu'on se fait de soi une fois mort, qui est une idée ridicule de toute façon, mais qui fait qu'on a envie d'être dans son cimetière natal, enfin le cimetière de son village natal, parce qu'on a l'impression que l'éternité c'est long et autant la passer dans un endroit qui nous est agréable. Et j'aime les cimetières parce que Chambois est associé à un autre petit village à côté qui s'appelle Fel. Mmh. J'aime les deux cimetières de ces deux villages, même s'il y en a un qui aujourd'hui est à côté, un cimetière qui est à côté de quelques pavillons, c'est pas très sympathique, mais un autre qui est vraiment en plein milieu de la campagne, et c'est là qu'on a envie de passer son éternité.
Mmh. Alors, expliquez-moi ce que c'est exactement qu'être normand, parce que moi j'ai deux images en tête. Il y a les Vikings, effectivement, qu'on apprenait à l'école, avec ces Normands, hein, ces Normands, les Northmen, les hommes du Nord, oui, qui remontent la Seine, qui font des raids et qui s'installent le long de la Seine. Et puis moi, l'autre image que j'ai toute bête en tête, c'est le peut-être bien que oui, peut-être bien que non, qu'on dit, et c'est pas très raccord avec les Vikings. Alors, c'est qui le Normand au milieu de tout ça?
Pas du tout, au contraire, c'est très raccord, parce que peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est quand il y a un litige, on dit, on va en discuter, et quand on aura discuté, qu'on aura décidé le pour, du contre, etc., on va trancher, et quand on aura tranché, on se tiendra à ce qu'on aura tranché. Alors évidemment, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est devenu ni oui ni non, oui et non en même temps, mais c'est très exactement le contraire. Il y avait ce qu'on appelait un droit à la chicane, et c'est du droit normand, ça, et le droit à la chicane, c'est la possibilité, justement, de dire examinons la totalité des possibles. C'est-à-dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça dépend des circonstances, des occasions. Et puis quand on aura vraiment tout décidé, à un moment donné, on va trancher et on s'y tiendra. Donc non, au contraire, la Normandie est une terre de décision franche, virile et capitale.
Ah oui, vous voulez dire que le Viking était un fin diplomate ?
Alors, le viking, c'est le contraire de ce qu'on dit habituellement, parce qu'il y a effectivement une espèce de caricature du viking, et la plupart du temps, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, comme vous le savez, et comme les vikings n'ont pas gagné au sens classique du terme, ce sont plutôt les chrétiens qui ont gagné et qui font une histoire dans laquelle ils intègrent les vikings, et les vikings seraient des méchants, sanguinaires, etc., etc. Pas du tout, ce sont d'abord des commerçants, ce sont des gens qui, en fonction du climat, descendent du nord où il fait très froid, où il y a de la neige, de la glace, etc., et on peut pas vivre, parce qu'on peut pas avoir des cultures, donc ils descendent là où ils peuvent trouver de quoi se nourrir et puis ils s'installent et ils font du commerce. Alors de temps en temps, effectivement, ils rentrent dans des abbayes, ils volent de l'or, des pierres précieuses, mais la plupart du temps, ils s'installent, ils font des mariages mixtes, on dirait aujourd'hui, et ils font du commerce et ils disparaissent dans la nature, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent tout à fait, ils n'ont pas du tout le sens de l'identité, etc. Mais en même temps, ils ont inventé, enfin, tout ce qui est scandinave, tout ce qui est nordique, tout ce qui est islandais, par exemple, allez voir du côté des sagas islandaises, eh bien vous verrez qu'il y a une invention de la démocratie et que c'est l'une des premières inventions de la démocratie, que quelque chose a à voir entre la démocratie et justement la chicane, parce que la chicane, c'est la possibilité de disserter sur le droit pour se dire que ben, finalement, il y a quelque chose qu'on aura décidé tous ensemble, je dirais de manière démocratique. Et ça reste quelque chose qui compte en Normandie. On a toujours envie d'exprimer son droit à la chicane, et c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de mieux, hein, parce qu'il y a pas forcément le désir de faire une communauté. Autant les Corses font une communauté, les Bretons font une communauté, les Alsaciens font une communauté, mais vous me direz en même temps qu'ils ont une langue. Les Normands, vous avez Haute et Basse Normandie, même si elles sont réunifiées depuis quelques temps. Et puis après, vous avez la Normandie, vous l'avez bien dit tout à l'heure, la Normandie de la mer et la Normandie de la terre. Et puis après, vous avez la Normandie des riches et la Normandie des pauvres. Et puis aujourd'hui, vous avez la Normandie des Parisiens. Ça peut être le Perche, ça peut être Deauville, par exemple, ou Honfleur. Mais ça peut être aussi la Normandie des pauvres ou des gens modestes. Vous avez parlé tout à l'heure du Pays d'Auge. Il n'y a pas de grosse fortune dans le Pays d'Auge. Et c'est très, très diversifié, très, très divers. Et ça reste quand même une terre d'individus.
Nathalie ?
Oui, il y a aussi une vertu viking, hein, pour en revenir à eux, c'est le courage.
Oui, vous avez raison. Alors, c'est pas forcément un courage vainqueur et guerrier. Ce sont pas des gens qui poussent des cris en disant qu'ils sont courageux. Mais, par exemple, moi, j'ai un ami qui est médecin, qui n'est pas originaire de Normandie, qui me disait, mais je n'ai jamais vu de gens autant courageux. Il me dit, dans les campagnes, les gens appellent le médecin quand ils sont au bord de la mort.
Ah oui?
Et ils sont, par exemple, à l'endroit de la souffrance. Dans une relation singulière. Mon dentiste aussi qui me dit, voilà, il a vu un jour quelqu'un arriver, il lui dit, ah, vous savez, il va falloir vous refaire les dents, il va falloir une opération, on va faire des anesthésies. Il lui a dit, mais vous m'arrachez toutes les dents tout de suite sans anesthésie.
Ah bon? Vous faites un portrait des Normands absolument stupéfiant.
Non, mais il y a un courage chez les Normands, on ne se plaint pas. On ne dit pas qu'on souffre quand on souffre. Et puis, il faut vraiment souffrir beaucoup pour dire qu'on souffre vraiment.
Michel Onfray, vous restez avec nous, on continue à explorer votre Normandie. À tout de suite sur Europe 1.
Et si on partait tout l'été, Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1.
Ma belle, ils sont canons tes cheveux.
Je sais, je suis allée chez Bleu Libellule.
Bleu Libellule, tous les incontournables coiffures et esthétiques professionnelles dans 200 magasins et sur bleulibellule.com. Conditions de l'offre en magasin.
Conforama, le confort pour tous.
Et si pour la rentrée, on faisait de la chambre de vos enfants un vrai terrain de jeu?
Avec le lit mezzanine Andy 90 cm en pain massif blanc à 189,99€ seulement. Construisez-lui un petit nid douillet en haut et une vraie aire de jeu en bas.
À chacun son projet rentrée.
Conforama, jusqu'au 24 août, conditions en magasin et sur conforama.fr.
Tout ce qui compte pour vous existe à Prix Leclerc. On parle rentrée des classes et bâtons de colle.
Eh oui, cette saison, du 4 août au 5 septembre, Leclerc propose un lot de 9 bâtons de colle UU de 8,20 g plus un de 21 g, le tout avec 25% de réduction immédiate, et donc à 4,49€.
De quoi tenir toute une année scolaire normalement.
Sans compter les heures de colle. Plutôt.
Voir modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
16h-18h, et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Tout à l'heure, après le flash de 17h, nous irons au Maroc. Pour l'instant, nous explorons la Normandie avec un guide exceptionnel, Michel Onfray, qui est en ligne avec nous. Michel Onfray, si vous nous indiquez un ou deux petits endroits à vous que vous adorez en Normandie.
Oh, je ne vais pas être très objectif parce que c'est Chambois, mon village natal, et c'est, vous en avez gentiment parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle le chemin de la Garenne, qui est un chemin qu'on fait en partant de Chambois, on fait un petit tour dans la forêt, une petite forêt, et puis on revient par le village dont je vous parlais tout à l'heure, qui est Fel, et on a un tour du monde poétique et sociologique. Vous avez aussi parlé de Marcel Proust, et de fait, c'est l'occasion de faire un tour proustien. Moi, j'ai 61 ans maintenant, donc j'ai connu plein de commerces qui ont disparu, des gens bien sûr qui sont morts, mais il y a pour moi un endroit magnifique qui est le centre de mon jardin la nuit quand tout est éteint. C'est l'endroit le plus beau du monde pour voir la Voie lactée. On a l'impression qu'il suffit de tendre le bras pour décrocher les étoiles.
Mais le ciel n'est pas souvent clair en Normandie.
Si, qu'est-ce que vous imaginez là? Chambois est un village de 500 habitants, il n'y a pas de pollution visuelle. Oui. Et donc, quand tout est éteint, on a un éclairage public qui s'éteint vers 11h minuit. Dans ce village, eh bien, là, vous avez vraiment l'impression d'être au centre du cosmos, quoi. Ouais. Il y a quelque chose d'assez magique là.
Je parlais de la météo, évidemment, de la réputation, parfois excessive, de la Normandie.
Alors bon, vous savez, on a un réchauffement climatique qui est visible aussi en Normandie. On le voit bien d'ailleurs, il y a eu une époque où on avait des difficultés à faire du maïs et il fallait beaucoup arroser le maïs. Aujourd'hui, on fait du maïs sans difficulté. Ça change considérablement. On voit qu'on peut faire du vin. Il y a par exemple à Saint-Pierre sur Dives, un ancien notaire qui s'est reconverti et qui fait un très bon vin blanc et rouge, par exemple. Donc vous voyez, par exemple, les limites de la viticulture se déplacent vers le nord. Donc ça change considérablement. Et puis on a perdu, donc il fait vraiment très chaud l'été, mais on a perdu en même temps les hivers rigoureux qui faisaient qu'on avait 50 cm de neige, par exemple, et qu'on pouvait faire des bonhommes de neige. Ça fait des années que ça n'est plus possible. Ouais.
Et quel est votre plus grand souvenir gastronomique en Normandie?
Alors écoutez, il y a deux choses. Mon père était ouvrier agricole et avait un petit jardin potager, un jardin ouvrier. Et mon plus beau souvenir, c'était une fraise mangée dans ce jardin. Mon père faisait son jardin le soir, par exemple, après sa journée de travail. Et puis, il y avait des œillets, des œillets de poète, par exemple, qui sont mes fleurs préférées. Et puis, les fraises, mon père me disait, va passer ça sous l'eau, comme il me disait. J'étais gorgé de toute la chaleur de la journée. Je passais ça sous un robinet d'eau glacée. C'était vraiment une eau de source. Et il y avait quelque chose de magique à mettre la fraise dans sa bouche parce qu'elle était très fraîche sur le pourtour et la périphérie. Et puis quand on écrasait ça sous sa langue et son palais, et d'un seul coup, il y avait un jus très chaud qui dégoulinait dans le corps et on était d'un seul coup tout entier une fraise. Donc ça, évidemment, c'est le souvenir proustien, c'est le souvenir naturel, je dirais. Et le souvenir culturel, c'était mon ami Michel Bruno qui a eu un restaurant extraordinaire qui s'appelait La Bourride. C'était un fou au sens génial du terme et qui était capable de faire des choses extravagantes. Il faisait par exemple un gâteau café-whisky-tabac.
Ouais.
Donc il a déjà envoyé quelqu'un, à l'époque il avait envoyé quelqu'un à l'hôpital, mais c'était c'était quelque chose de très viril. Ouais. Il y avait le whisky qui rappelait effectivement Et tout ce qui est nord, quoi, tout ce qui est pays nordique, les tourbes. Il y avait le tabac qui renvoie à Dieppe, par exemple, ou Honfleur, qui étaient des ports où les gens sont allés découvrir le monde, par exemple.
Mais le tabac, il y avait du tabac dans le gâteau?
Oui, des feuilles de tabac.
Ça se mange?
Bien sûr, on pouvait infuser du tabac.
Oui. Absolument, on infuse du tabac. Alors évidemment, on avait là-dedans de l'alcool, de la caféine,
café, whisky, tabac.
Donc l'alcool et tabac, voilà. Donc on avait tout ça mélangé. Ça, c'était un truc de fou, mais il était capable de cuire des foie gras sur des brassées, par exemple, de lavande, enfin, il faisait des choses extravagantes, ou alors des choses très normandes pour le coup, une espèce de carpaccio de moule, de coq et de bulot, mais il ajoutait également, comment appelle-t-on ces coquillages qui sont des coquillages un peu rares et précieux qu'adorent les Japonais. D'un seul coup, j'ai un trou.
Les ormeaux.
Ah oui, les ormeaux.
Et il coupait tout ça vraiment. Alors, il faut d'abord donner des coups de marteau là-dessus pour que la chair se détende. Et il avait escalopé tout ça finement. Et on avait vraiment l'impression d'avaler la Manche. Vous avez parlé tout à l'heure de la Manche et on peut confondre parce que la Manche, c'est le département, mais c'est aussi la mer. Et ça, c'était une nourriture extraordinaire parce qu'elle était très, très normande pour le coup.
Je vous parlais avec tellement d'amour, de passion et de profondeur de la Normandie. Qu'est-ce qui est normand en vous? Quelle partie de votre caractère a forgé la Normandie?
Je pense que ça fabrique des individus solitaire rebelle.
Ah oui.
Vous avez parlé tout à l'heure de quelques écrivains. Quand vous prenez Maupassant, Flaubert, mais vous ajoutez Tocqueville, par exemple, ou Georges Sorel. Roland Barthes est né à Cherbourg. André Breton est né à Tingebray.
Barbé d'Aurevilly,
vous avez bien raison, bien sûr, ou Octave Mirbeau. Et ils ont tous en commun d'avoir été des subjectivités impossibles, ou Alain, le philosophe Alain, des subjectivités impossibles à contenir. Ce sont des individus rebelles à qui on ne peut pas leur raconter, quoi. Ce sont des gens qui, dans leur diversité, vous parliez de Barbé, il était très catholique, je parlais de Mirbeau, il était très anticatholique et anticlérical. Vous avez Tocqueville qui était plutôt à droite, vous avez Sorel qui était plutôt à l'extrême gauche. Mais ce qui rassemble tous ces individus-là, c'est effectivement un goût de la liberté, de la subjectivité. On creuse son sillon et on n'a que faire de ce que disent les autres.
Ouais. Et votre père, dont vous parlez beaucoup aussi, quelle leçon ce père normand de la vie vous a-t-il donné, dont vous vous servez encore aujourd'hui ?
Vous savez, mon père, c'était un contemporain de Virgile, c'est-à-dire qu'il a commencé son existence, il a commencé à labourer avec les chevaux, il avait 13 ou 14 ans, et en fait, il connaissait la nature comme Virgile connaissait la nature en son temps, qui était un poète romain. Et puis après la guerre, il a connu les tracteurs, donc ça a considérablement changé. Mais ce que mon père m'a appris, c'est justement le sens de la nature, c'est-à-dire le sens du jour et de la nuit, le sens des saisons, le sens de la permanence, de l'identité,
de la durée. Qu'est-ce que ça veut dire, le sens du jour et de la nuit, par exemple ?
Et bien, par exemple, vous comprenez que le jour succède à la nuit, qui succède au jour, qui succède à la nuit, etc. Et vous intégrez votre existence dans ce schéma-là, et vous ne vous prenez pas pour le centre du monde, parce que vous savez que vous avez des ancêtres, et que vous aurez peut-être des descendants, et que vous aussi, vous êtes une journée dans une année, et votre vie n'est jamais que ça. Vous réveillez, vous passez la journée, vous vous endormez, et la vie est passée, vous avez vécu, je sais pas, 70, 80, 90 ans. Et donc, c'est le sens de la nature, du cosmos, plus que de la nature. Et ça, je pense que quand on est un vrai paysan, un paysan pour le coup, il n'y a pas vrai ou de faux paysans, les faux paysans ne sont pas des paysans, mais quand on est un paysan, on a le sens de ça, du rythme, du cosmos, de la place qu'on prend dans le cosmos. Et il y a une espèce de modestie, de soumission au destin. On sait bien qu'on ne change pas les choses, on sait bien que le réel, c'est comme ça, quoi. Donc d'où l'intérêt de regarder le ciel et le cosmos. On sait bien qu'on est un petit point dans l'univers, qu'on ne va pas durer longtemps, et qu'il vaut mieux être quelqu'un de droit et de debout pendant ce temps-là.
Michel Onfray, on adore vous entendre parler de la Normandie, on resterait avec vous des heures.
C'est gentil. Si vous me permettez, je voudrais dire qu'il y a un très grand Normand, dont on parle assez peu, et qui a beaucoup et bien écrit sur la Normandie, c'est Léopold Sédar Senghor.
Oui.
Et qui est donc un Sénégalais noir, comme chacun sait, et qui a écrit sur la Normanditude un très beau texte, parce que moi je pense qu'un Normand, c'est pas quelqu'un qui a des quartiers de noblesse en disant « ça fait 10 siècles que je suis en Normandie, j'ai le droit de me dire Normand ». Pour moi, un Normand, quiconque aime la Normandie, y vit et y travaille. Mmh. Donc après, on se moque des couleurs de peau, des religions ou quoi que ce soit. C'est une passion pour un lieu, c'est une passion pour des ciels. Vous avez parlé tout à l'heure de l'impressionnisme un peu. Eh bien, l'impressionnisme est né en Normandie, et c'est pas par hasard. Il y a eu Eugène Boudin, qui est un compatriote de Satie, par exemple, dont vous avez aussi parlé. Et je pense que la lumière normande a rendu possible l'impressionnisme, qui lui-même a rendu possible un autre personnage qui est Duchamp, et Marcel Duchamp est originaire de Rouen. Et il n'y a pas eu d'art contemporain sans la fameuse fontaine, sans la fameuse pissotière de Marcel Duchamp, qui était originaire de Rouen. C'est une terre riche en révolution, en révolution silencieuse.
Vous m'avez convaincu que la Normandie est le centre du monde.
Mais oui, bien sûr, j'espère bien.
Merci beaucoup Michel Onfray de nous avoir raconté votre Normandie, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de la revue politique trimestrielle Front Populaire, qui a été lancée le 23 juin, que l'on trouve en kiosque, en librairie et sur, bien sûr, le site internet Front Populaire, qui apparemment est un gros succès, puisque vous en seriez à 75 000 exemplaires vendus, ce qui est quand même pas mal. Merci.
Ouais, on est au-delà. Mais c'est déjà très bien.
Merci beaucoup Michel Onfray.
Je vous en prie, c'est moi. Merci, au revoir.
On se retrouve dans un tout petit instant avec toujours plus de Normandie et les histoires passionnantes de Nathalie Elal. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Tous les jours sur Europe 1, entre 16h et 18h, nous vagabondons. Nous vagabondons à proximité, dans l'un des plus beaux pays du monde, la France tout d'abord, de 16h à 17h. Et puis plus loin, autour du monde, entre 17h et 18h, nous irons tout à l'heure au Maroc. Nathalie,
oui.
La Normandie, c'est notre sujet du jour. Donc évidemment, vous vous êtes intéressée à l'histoire et au débarquement.
Oui, et notamment à un animal, enfin plutôt à un pigeon qui s'appelait Gustave et qui a transmis...
C'est lui, là?
Oui, enfin... Les descendants de Gustave. Parce que Gustave, il a transmis un message capital, absolument capital, aux alliés. Il a changé le cours de l'histoire. Alors, tout commence pendant la Première Guerre mondiale et non Gustave. Pas pendant la Deuxième. Oui, Gustave, s'il te plaît, c'est un peu... Bon. Alors, quand les forces britanniques, donc, ouvrent une section spéciale de l'armée qui s'appelle le National Pigeon Service, c'est-à-dire le NPS.
Non, mais ça existe vraiment, le National Pigeon Service ?
C'est-à-dire qu'en fait, les forces britanniques sont convaincues de l'utilité des pigeons pour envoyer des messages stratégiques. Donc, les pigeons voyageurs, évidemment, dressés, retournent sur leur lieu de départ sans risque d'être interceptés, contrairement aux messages radio.
Et Gustave, il avait déjà du service ?
En 1914, ah non, il n'était pas encore sorti de l'œuf. Alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, en revanche, il y avait des pigeons qui étaient formés à Thorney Island dans les îles britanniques. Et leur objectif, c'était donc d'assurer des missions classées top secret. Et Gustave a été donné, comme beaucoup d'autres pigeons, par un agriculteur à ce service et donc entraîné à des opérations militaires. À 8 semaines, Gustave a suivi une formation de haut vol, enfin c'est le cas de le dire, au NPS. Il avait un joli petit nom de code, hein. C'était 43 31 066. Il a été rebaptisé Gustave, c'était quand même plus convivial.
Bah oui, c'est plus sympa. Alors qu'est-ce qu'il a fait Gustave?
Alors... Le 6 juin 44, le brave Gustave, il embarque sur un navire spécialisé pour les opérations amphibies au large des côtes normandes où il attend d'être lancé en vol par le correspondant de guerre. Ouais. Parce qu'en fait, il est chargé d'annoncer l'imminence du débarquement aux forces britanniques en retournant à la base militaire de la Royal Air Force. Il accomplit un voyage de 240 km, un parcours périlleux avec des vents contraires, des tirs ennemis, des conditions météorologiques hostiles. Et au bout de 5 heures et 16 minutes précisément, il parvient enfin à la base militaire pour y délivrer le message suivant. Nous sommes à environ 25 km au large des côtes. La première vague d'assaut a débarqué à 7h50. Les communications venant des plages indiquent que les tirs ennemis ne gênent pas les opérations depuis 5h45. Aucun avion ennemi décelé. Alors, son action à Gustave, elle est saluée par les plus hautes autorités. Et en novembre 1944, on lui remet une médaille.
Ah bon ?
Bien sûr,
un
la médaille. Oui, un pigeon, la médaille Deakin.
Mais est-ce qu'il a conscience de ce qu'il a fait, vraiment ?
Ça, je pense qu'un pigeon n'a pas beaucoup de cervelle. En même temps, pour faire 240 km sans se faire shooter, moi je dis bravo Gustave. Donc il a eu cette décoration incroyable. Malheureusement, Gustave a mal fini. J'aime bien les histoires qui finissent mal. Mais il n'a pas fini.
Avec des petits pois.
Oui, c'est ça, non. Il n'a pas fini non plus au tir au pigeon. Après avoir reçu tous les honneurs, il est mort écrabouillé. Et l'histoire raconte qu'on lui aurait marché dessus. Accidentellement, bien sûr, en nettoyant sa cage.
Oh, le destin. C'est pitoyable. c'est triste.
Mais on l'a pas mangé après.
Ah bon ?
Non.
Mais une fois écrasé.
Bon. Vous avez d'autres histoires d'animaux comme ça ?
Oui, j'en ai une autre.
Qui finissent bien ?
Oui, alors c'est avec, vous connaissez Bourville, hein, Adada. Là c'est avec le cheval, parce qu'en fait la Normandie, c'est la première région de France pour l'élevage de cet animal prestigieux. 115 000 équidés et plus de 12 000 naissances par an, autant vous dire, vraiment la première région de France. Alors, comme les vaches, hein, le cheval est profondément ancré dans le terroir normand. C'est vraiment indissociable de son image. Il est partout, presque, là où il y a de l'herbe. Parce qu'en fait, le cheval, il se plaît, hein, Philippe, dans un climat doux et humide, dans les bocages. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de lieux qui sont dédiés pour son élevage. Des haras, le célèbre haras du Pin, le haras de Saint-Lô. Le premier qui est créé pour l'élevage royal par Colbert au XVIIe siècle. Il y a des fermes, des exploitations avec des centres équestres, des hippodromes, la reproduction, la vente.
Pourquoi dans cette région particulièrement? Parce que ça peut, c'est valable dans beaucoup de régions. Ça.
C'est valable. Vous allez voir pourquoi. Et justement, il est lié plus particulièrement à l'histoire de Deauville et au développement et au rayonnement de cette ville. Parce qu'au 19e siècle en France, vous savez, c'est une période très intense de fondation de stations balnéaires. Au départ, c'est Dieppe, puis ensuite c'est Trouville. Et Deauville, elle n'existe pas. Et puis en 1859, le duc de Morny, qui est le beau-frère de Napoléon III, il s'associe avec deux personnes, un médecin et un banquier. Ils investissent dans 240 hectares de marais, ils les font drainer. C'est d'ailleurs le lieu de Deauville. On va d'ailleurs surnommer Deauville Morniville, hein, à cause de ce duc de Morny. Et donc, entre 1860 et 1864, Deauville sort littéralement des sables, financé par ces trois hommes. On construit un bord de mer, une zone résidentielle de luxe avec le casino, une zone mondaine avec l'hippodrome et une zone d'activité le long de la Touques. La Touques, c'est ce fleuve hein, côtier qui se jette dans la Manche entre Deauville et Trouville.
Ça veut dire que Deauville, c'est un projet immobilier construit de toutes pièces.
De toutes pièces, ah ouais. Absolument sorti des sables et des marais, absolument.
Ah, et alors pourquoi un hippodrome tout de suite ?
Eh bien en fait c'est la recette du succès, hein, dans une grande station balnéaire ou thermale. Vous vous souvenez, on a vu ça avec Vichy, hein, on en a déjà parlé, c'est la trilogie casino, chevaux, dodo, enfin si je puis dire, dodo avec des femmes entretenues bien sûr, et le cheval.
Vous avez une vision des loisirs qui m'épate quand même.
Non,
toujours.
J'ai une vision de la belle époque et des années folles qui est bien celle de la réalité,
non, mais
je
Nathalie,
vous assure.
Nathalie, j'ai une question, les chevaux des étalons
à monter en Amazon, mon cher Jean-Bernard, forcément. Le cheval, c'est aussi une histoire de grande fortune, une histoire d'aristocrate. Et d'ailleurs, c'est pas un, mais deux hippodromes qu'il y a à Deauville. Il y a eu l'hippodrome de la Touques et puis des années plus tard, l'hippodrome de Clairefontaine. Donc finalement, c'est vraiment un rendez-vous très important pour le cheval depuis toujours. Ça attire les meilleurs chevaux et les meilleurs jockeys du monde. Et même l'aéroport de Deauville, c'est le premier en France pour le transport des chevaux grâce à des infrastructures spécifiques et une rampe d'accès spéciale pour eux.
Ah, c'est marrant ça.
Ah, c'est incroyable.
Quelle histoire, que d'histoire Nathalie. Merci beaucoup. À suivre sur Europe 1, les bons petits plats, les saveurs gourmandes, les choses délicieuses qui viennent de Normandie avec Emmanuel Jarry.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait, nous sommes en Normandie. Nous voici maintenant avec Emmanuel Jarry qui est à l'origine de l'émission C'est meilleur quand c'est bon sur Internet qui est un gros succès. Et Emmanuel, je veux dire que vous me décevez beaucoup.
Oui.
Parce que moi, je ne sais pas, je suis en Normandie, j'ai envie de me parler de beurre, de crème, de pommes. Et vous voulez nous parler de canard.
Alors oui.
Non.
Ah oui, vous avez envie d'entendre parler de beurre. Alors je vous ai dit, moi je suis bressane, donc le beurre je connais bien, puis tout le monde connaît bien le beurre, la crème. Alors qu'est-ce que vous saviez qu'il y avait une spécialité de canard en Normandie qui a donné un grand plat mythique de la haute gastronomie française?
Non.
Donc moi je suis là pour vous faire découvrir des choses.
Vous voulez dire que je suis banale avec mon beurre?
Non, pas du tout. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit je vous emmène sur des sentiers inconnus de la gastronomie. Alors la ville de Rouen, elle est réputée pour ses canards depuis le 18e siècle. Le canard de Rouen, oui, voilà. Déjà, vous voyez, je vous étonne. C'est une race, le canard de Rouen. Il est connu pour être tendre et pas trop gras. Et on trouve d'ailleurs à Rouen des spécialités à base, enfin des pâtés de canard, des pâtés en croûte. Mais à partir du 19e siècle, on voit apparaître un plat, le fameux plat dont je parlais tout à l'heure, le canard au sang, qui est le plat mythique de la Tour d'Argent. Le monde entier est venu le déguster à Paris. Et ben, ce plat, c'est à l'origine une recette rouennaise, pas très loin de Rouen, à Duclair. Il y avait des élevages de canards un peu particuliers parce qu'en fait, c'était des cannes de basse-cour qui s'accouplait avec des canards sauvages.
Des cannes de basse-cour, voilà. C'est-à-dire que le canard sauvage passait,
voilà, pendant
disait
la migration.
Tiens, une basse-cour alléchante.
Une petite pause pendant la migration, aller dans la basse-cour. Et le produit de cette union, c'est ce qu'on a appelé les canards du clair. Et ils ont une particularité, ces canards, c'est qu'ils sont étouffés.
Étouffés ?
Voilà.
Comment ça, étouffés ?
Eh bien, en fait, on ne les saigne pas, on les étouffe.
Et on dit. Ça vous fait rire.
Non, mais vous allez voir, c'est intéressant parce que c'est notre patrimoine. En fait, ils étaient transportés pour être vendus au marché de Rouen par des fermières.
Ouais.
Et certains canards mouraient étouffés au fond des sacs pendant le transport. Et on s'est dit, on ne va pas les perdre. Donc, un restaurateur a eu l'idée de créer cette recette. On lève les magrets. C'est très, très bon, hein, cette recette. Je ne sais pas si vous en avez déjà goûté.
Si,
on lève les
délicieux.
Magrets, on lève les cuisses. Et ensuite, il reste les carcasses avec le sang et les abats. On presse dans des presses parfois somptueuses en argent. Et on obtient une sauce. D'où le nom de canard au sang, canard à la presse ou canard à la rouennaise. Et aujourd'hui, pour perpétuer cette recette, évidemment, il faut continuer d'étouffer ces canards. Et cette mise à mort, elle a été un peu décriée au nom, enfin bon, voilà, parce que pour au nom du bien-être animal.
Bah oui.
Mais au nom de l'exception culturelle, on a autorisé certains élevages à continuer cette pratique. Notamment, les canards, par exemple, à la Tour d'Argent, viennent de Vendée, de l'élevage qui s'appelle Burgot. Ils ont le droit trouvé leur canard. Et je précise que les canards sont endormis avant. Parce que
si l'association. C'est horrible.
Mais non, c'est pas horrible parce que de toute manière, ils vont mourir. Mais que vous l'égorgiez ou vous l'étouffiez s'il est endormi avant, tout va bien. Donc voilà, cette cuisine au sang, c'est toute une époque. Il y a de nombreuses spécialités en Normandie.
Mmh. Bon, comme quoi, par exemple?
Alors, il y a le boudin de Mortagne au perche, ouais, qui est très réputé. On le cuisine avec des pommes. On sait que la Normandie, il y a beaucoup de pommes. Mmh. Et à Cherbourg, il y a une spécialité qui s'appelle le bol de sang. Et en fait, c'est du sang qui est cuit comme un boudin. Et au lieu d'être embossé dans un boyau, en fait, il est présenté dans un bol. Et la cuisine au sang, elle était très présente dans les campagnes françaises autrefois.
C'est un bol plein de boudin, en fait. En
voilà, ouais. Mais on appelle ça le bol au sang.
Ah ouais.
Alors, c'est que le nom.
Mais j'aime bien.
Oui,
mais
c'est
je
ça.
Suis, je
mais si vous savez.
Stupéfait.
Et ben voilà. Et oui, je me suis dit que, en fait, vous n'êtes pas un grand amateur de sang.
Si. Ah, moi, si. J'aime bien les petits boudins créoles, mais je connais
mais
moins
le bol
le
de sang, non, avec la chaleur. Voilà.
Je ne connais pas.
Bon, alors, du coup, je vous emmène plutôt du côté de la côte. Avec, ouais. On va essayer de découvrir d'autres choses. Entre Granville, Cherbourg et Port-en-Bessin, sur toute cette côte, justement, on pêche énormément. Mmh. On pêche des poissons, bien sûr, mais beaucoup de crustacés et de coquillages.
Ah, oui.
Alors, on pêche la coquille Saint-Jacques, évidemment, l'hiver. Alors, ça, c'est formidable, je vois Nathalie.
Ah, moi, je me roule par terre, je vais à genoux jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle pour de la Saint-Jacques, c'est le cas de le dire. Voilà.
Ah oui, c'est fort. Moi, je suis partie en mer pendant 9 heures pêcher la coquille Saint-Jacques à Port-en-Bessin. Bon, j'ai été malade 6 fois, c'était une grande aventure. Mais
à cause de la mer ou à cause d'une coquille?
À cause de la mer, j'ai le mal de mer. Alors, on pêche les coquilles Saint-Jacques l'hiver. En ce moment, j'ai dit, c'est la saison des homards. Mais il y a beaucoup aussi de praires et de bulots. Et je voudrais vous parler des bulots, parce que s'il y a bien un produit qu'on achète sans jamais se poser la question de la provenance ou même de la qualité, c'est le bulot. Or, tous les bulots ne se valent pas. Alors, il faut acheter des bulots frais, non congelés, de préférence crus. Mmh. 80% de la pêche vient de Normandie.
Ah oui ?
Et plus précisément de la baie de Granville. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont bons là-bas ? Parce que ce littoral du Cotentin a les plus fortes marées d'Europe. Mmh. 14 mètres d'amplitude entre marée haute et marée basse. Et en fait, ça fait des phénomènes de brassage qui ont un impact sur la nature des sédiments qui sont. Et puis avec des sols sableux et clairs. Et donc ce terroir donne au bulot une saveur très fine et surtout l'absence de goût de vase.
Ah oui.
Si un jour vous goûtez un bulot qui a un goût de vase, bon, ça vous fâche à vie, je pense, avec le coquillage.
Non, je suis d'accord.
Donc voilà, en plus c'est une pêche artisanale, au casier, des petits bateaux qui restent pas longtemps en mer. Donc voilà, ils arrivent très frais, on les cuit dans un bouillon, on peut les manger avec une mayonnaise. Et moi je les aime, je vous donne une petite recette qui est plutôt une recette du sud avec des produits de Normandie.
Je suis preneur, j'adore ça, Emmanuel.
Et ben on prend une petite, prenez du céleri branche, vous le coupez la branche en morceaux, mais aussi pourquoi pas les feuilles, et vous mélangez avec soit un jus de citron, mais encore mieux un jus d'orange et des zestes d'orange.
Un
de
jus
d'huile
d'orange
d'olive.
Avec du bouillon.
Oui, on fait beaucoup
ça
en Sardaigne par exemple. Alors voilà, une petite salade fraîche.
Vous mettez le jus d'orange, comment ça se présente?
Bah, vous pressez un jus d'orange, vous faites une vinaigrette. Au lieu d'avoir du vinaigre, vous mettez le jus d'orange, vous mettez l'huile d'olive et puis des petits zestes en plus, vos céleri branches, vos herbes et tout ça, et vous mélangez, ça fait une salade fraîche très très bonne.
Voilà. Ça a l'air bien.
Ah oui, c'est pas mal.
On a envie d'être invité chez Emmanuel Jarry.
Ah bah oui, c'est vrai.
C'est prévu, il me semble.
Je vous prépare. Vous avez été invité, vous?
On va tout faire pour.
Pas encore, mais je vais vous préparer des bons petits plats.
Merci beaucoup Emmanuel Jarry de nous avoir parlé d'une Normandie un petit peu inattendue, on ne s'attendait pas à ça. Dans un petit instant, les bons conseils de Jean-Bernard Carrier pour visiter la Normandie et ne rien rater. Mais juste auparavant, pour se détendre, un petit Carla Bruni avec quelque chose sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous visitons la Normandie de 16h jusqu'à 17h. Il nous faut maintenant les bons plans, les bonnes astuces, les bons trucs de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Alors, est-ce que vous avez une ville préférée, Jean-Bernard?
Alors, Michel Onfray a beaucoup parlé de Rouen. Vous avez tous fait allusion à Rouen, qui est vraiment la ville du patrimoine par excellence, le centre-ville absolument magnifique. Il y a beaucoup de villes chargées d'histoire avec du gros patrimoine dans cette belle Normandie. Mais j'avoue que j'ai fait un petit pas de côté parce que j'adore Le Havre.
Ah ouais ?
Alors rien à voir avec notre ex-premier ministre. Je n'ai pas d'acquaintance avec Monsieur Philippe. Mais Le Havre, c'est vraiment la ville, pas comme les autres, pas simplement à l'échelle de la Normandie, mais à l'échelle de la France.
Il y en a beaucoup qui n'aiment pas.
Alors justement, on va quand même resituer un petit peu le contexte du Havre. C'est une ville qui a été entièrement détruite par les bombardements alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, il y a une période de reconstruction qui a duré 15 ans sous l'égide de l'architecte Auguste Perret. Donc c'est vraiment lui qui a mis sa patte d'architecte là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au Havre ? Eh ben, c'est des larges avenues angle droit, des bâtiments en béton, modernes, fonctionnels, tout est rectiligne. Il y a un côté laboratoire urbain assez fascinant, à tel point quand même, cher Philippe, que la ville, le centre-ville, a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005.
Ouais.
Donc c'est très déroutant, je l'avoue, mais il y a un côté fascinant. Il y a un bâtiment à l'architecture complètement bizarre que j'adore, c'est le volcan. Le volcan qui se trouve, donc c'est le centre culturel de la ville, donc tout le monde le connaît, vous ne pouvez pas le louper quand vous passez devant. C'est deux bâtiments blancs, arrondis, qui sont censés représenter un volcan. Mmh. Sur place, on l'appelle le pot de yaourt, pour vous dire un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est quand même le célèbre Oscar Niemeyer qui a fait ce bâtiment en 1982. Donc vous voyez, on a des grosses signatures.
C'est ça qui est fascinant,
c'est ça qui est fascinant, même si elle est étrange. Et une autre bizarrerie architecturale, je vous conseille vraiment de faire cette expérience, c'est de rentrer dans l'église Saint-Joseph, cette église très moderne, en béton, entièrement en béton, avec sa tour clocher qui fait 110 mètres de haut, qui est très massive. Hein. C'est vrai qu'au premier regard, on n'est pas forcément séduit. Mais à l'intérieur, les parois du clocher sont illuminées de 1000 vitraux, et des vitraux partout. C'est une sensation de vertige, vous levez la tête et vous êtes dans un puits de lumière. Alors c'est vrai, Le Havre, on aime ou on déteste, mais vous avez bien compris dans quel camp je me situais, Philippe.
Bon. Je suis un peu désorienté parce que entre Emmanuel qui ne me parle pas de beurre, et vous qui n'y a pas la moindre prairie, pas la moindre falaise.
On fait la Normandie
juste
de toutes
béton,
les surprises.
Je suis quand même désappointé.
Patrimoine UNESCO quand même.
Oui,
hein,
oui, oui. Bah,
quand
est-ce que vous pouvez me faire rêver un petit peu avec mes bons gros clichés?
Ah, les îles. Ah, ben voilà, c'est ça, les îles. Il y a des îles pas très connues en Normandie. Alors, il y a une île que j'adore qui se trouve au large du Cotentin. Elle s'appelle Tatihou.
Ah ouais.
On croirait que ça fait un peu Tahiti, non?
Ouais.
Comme ça règne dans le nom. C'est dans la Manche. Petite promesse de douceur, de rondeur. C'est un confetti de 28 hectares seulement. C'est l'île idéale pour une escapade vivifiante. Sur place, il y a juste quelques petites fortifications de Vauban, si vous voulez un petit peu découvrir du patrimoine. Des bunkers allemands de la Seconde Guerre mondiale. On y va à pied.
À pied sur une île?
À pied. On y va à pied.
Vous marchez sur les eaux.
À marée basse.
Okay.
Ou alors par un véhicule amphibie. Et la fréquentation est limitée à 500 personnes par jour au maximum. Donc pensez à réserver.
Et on fait la pêche à pied sur la plage?
Et on fait de la pêche à pied, bien entendu.
Il y a des oiseaux?
Oui, il y a des oiseaux, tout à fait. Alors, il y a une autre île que, franchement, un archipel que j'adore, c'est les îles Chauzet au large de Granville. Ne les loupez surtout pas, c'est un vrai paradis insulaire avec 400 îles à marée basse. Un archipel qui est toujours changeant. Et la grande île, qui s'appelle comme ça, la grande île, elle fait à peine 2 km. Il y a des plages de sable blanc et de l'eau turquoise. Mm-hmm. Vraiment, c'est une escapade idéale, si on veut, en pleine canicule, c'est à Chauzet qu'il faut aller.
C'est marrant, on ne pense pas aller sur des îles quand on va en Normandie, c'est étonnant.
C'est la bonne surprise aussi de la Normandie, c'est un archipel qu'on peut découvrir aussi en bateau.
Ouais.
Je suis sûr, en ce moment, en cette pleine période de canicule, c'est Chauzet qu'il faut choisir.
Et si on va un petit peu à l'intérieur des terres?
Alors, à l'intérieur des terres normandes, moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle la Suisse normande. C'est un micro-terroir qui se trouve à cheval entre le Calvados et l'Orne. Des petits airs de montagne. C'est la montagne de la Normandie.
Et ça monte à quelle altitude?
205.
Voilà,
il y a quelque chose de plus engagé. 250, 350 mètres. Alors c'est vrai que, bah oui, mais à l'échelle de Normandie, c'est déjà beaucoup.
Est-ce qu'il faut prendre une bouteille d'oxygène?
Non, il n'y a pas besoin de ça. Mais le relief est très spectaculaire. Il y a un côté accidenté, abrupt. Il y a des gorges sinueuses, des vallées encaissées. Il y a des barres rocheuses. C'est très surprenant par rapport aux ambiances un petit peu bocage qu'on voit souvent en Normandie. Là, on est vraiment désorienté parce que on se croirait vraiment dans un décor de géants fous. Il y a des vallées profondes, notamment la rivière Orne. Elle sculpte le paysage. Ça fait une entaille très profonde et on peut faire des balades en canoë-kayak sur cette rivière. Mmh. Voilà, c'est aussi un site pour les paradis, pour les gens qui sont amateurs de loisirs nature. On peut y faire du vélo, du parapente et de l'escalade. L'escapade,
et de l'escalade
voilà,
aussi.
C'est ça.
Ouais. Il y a un département que vous vouliez nous évoquer, c'est l'Eure.
Bah oui, l'Eure,
qui est
c'est
pas
en
très très connu.
Alors,
enfin, qui est moins connu.
Alors on connaît bien sûr, Nathalie, ça va vous parler, la maison et les jardins de Claude Monnet à Giverny.
Ah, oui.
C'est dans l'Eure.
Ah,
alors, c'est aux portes de la région parisienne.
C'est déjà la Normandie.
Mais c'est déjà la Normandie. Donc ça, pour la partie culture, c'est vraiment un incontournable. Il faut visiter ce site parce que c'est très fleuri, c'est sublime. Et côté nature, dans ce département de l'Eure, il y a le Marais Vernier. C'est un parc naturel régional qui se trouve dans le dernier méandre de la Seine, tout près du pont de Tancarville. Donc ça fait vraiment un décor très spectaculaire. Là, c'est la campagne, la nature par excellence. C'est la plus grande tourbière de France. On se trouve au milieu des pâturages à l'herbe très grasse. Il y a des vaches, des chevaux qui s'animent comme des petites taches là-dessus. Et puis, il y a un village que j'adore. Je vous recommande vraiment la visite de ce village. Ça s'appelle le Bec Éloin. C'est l'un des plus beaux villages de France qui est niché dans un vallon avec des ruelles fleuries, des maisons à pans de bois qui sont coiffées d'ardoises. Et justement, au Bec-Éloin, une activité très particulière qu'on peut faire, c'est un village qui est réputé pour la permaculture. À la ferme du Bec-Éloin, on peut s'initier à cette fameuse technique de maraîchage qui a le vent en poupe en ce moment, qui s'appelle la permaculture. Ça, c'est au Bec-Éloin.
C'est une abbaye aussi.
Et c'est, il y a aussi une abbaye.
Voilà. Et pour les Parisiens qui nous écoutent, c'est pas très très loin.
C'est à 2 heures de route.
Ouais, ouais. Ah. Merci beaucoup Jean-Bernard pour tous ces bons conseils. Dans un tout petit instant, après le flash de 17h sur Europe 1, nous partirons pour un pays qui nous emmène très 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 loin, extrêmement varié, les montagnes de l'Atlas, l'océan, le désert, les villes brûlantes, les médinas sombres parfois, comme celle de Fès que j'adore. Nous partirons tout à l'heure au Maroc, juste après le flash sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1. Il est 17h, les infos, Sophie Echen.
Vigilance rouge, canicule sur 9 départements français, Paris et la Petite Couronne, mais aussi l'Essonne, le Val d'Oise, les Yvelines, l'Eure et la Seine-Maritime. 53 départements sont concernés par une alerte orange, des Hauts-de-France au sud de l'Occitanie, en passant par le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Évitez les efforts sportifs et prenez soin de vos proches, particulièrement des plus âgés. La canicule, ce sera le sujet du débat des grandes voix dans votre grand journal du soir à partir de 18h30 sur Europe 1. Vous pouvez d'ores et déjà participer en appelant le 39 21. Emmanuel Macron retournera à Beyrouth le 1er septembre prochain pour s'assurer que l'aide proposée par la France est bien distribuée. Le président français qui s'est rendu au chevet de la capitale libanaise hier, 2 jours après les explosions qui ont ravagé la ville, au moins 149 morts et 5000 blessés selon le dernier bilan, et toujours des centaines de milliers de sans-abri. Cet après-midi, le président libanais Michel Aoun a rejeté toute enquête internationale après ce drame, estimant que cela diluerait la vérité. Michel Aoun qui évoque également l'hypothèse d'une action extérieure concernant la double explosion. Elle pourrait avoir été causée par une bombe ou un missile, a-t-il déclaré. Il demande l'aide de la France pour déterminer s'il y avait des avions ou des missiles dans l'espace aérien au moment des explosions. Les universités et les grandes écoles pourront à nouveau accueillir les étudiants. En septembre, elles étaient fermées depuis le mois de mars. Il faudra respecter les distances et porter un masque par endroit. Et puis dans le primaire et le secondaire, la distanciation physique ne sera plus obligatoire quand elle sera matériellement impossible. Les élèves de plus de 11 ans devront porter leur masque en intérieur et en extérieur. Justement, la généralisation du port du masque en extérieur, elle se poursuit en France. C'est au tour de Marseille d'adopter la mesure. Dès demain et jusqu'au 31 août, au moins le masque sera obligatoire dans 3 zones très fréquentées de la cité phocéenne, notamment sur le Vieux-Port. À ce propos, un nouveau conseil de défense consacré à l'évolution de l'épidémie est prévu la semaine prochaine. Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir. Plus de 1600 nouveaux cas détectés en France au cours des dernières 24 heures. Conséquence de cette épidémie, plus de 119 000 emplois détruits dans le secteur privé au premier trimestre. L'INSEE publie ses résultats aujourd'hui. Sont particulièrement touchés les secteurs de l'industrie, de la construction et le tertiaire marchand. En revanche, l'intérim a rebondi avec plus de 108 000 créations d'emplois. Du monde sur les routes, en cette veille de nouveau week-end de chassé-croisé, bison futé et voie orange sur tout le littoral méditerranéen dans les 2 sens de circulation. Orange également en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Attention, demain ce sera pire, tout le pays est en noir. Le cycliste néerlandais Fabio Jakobsen est sorti du coma 2 jours après sa violente chute à l'arrivée de la première étape du Tour de Pologne. Il avait été projeté par-dessus les barrières à pleine vitesse. Son état est bon aujourd'hui, selon les organisateurs de la compétition. Et puis du foot, Lyon va avoir 90 minutes pour réaliser l'exploit ce soir contre la Juventus de Turin. Match retour en 8e de finale de Ligue des Champions. Coup d'envoi à 21h. Un match à suivre intégralement en direct sur Europe 1. Soirée spéciale à partir de 20h avec Lionel Rousseau. Mais d'abord, on vous retrouve, Philippe Googler. Et si on partait, ça continue jusqu'à 18h sur Europe 1.
Merci Sophie Echen. L'info revient tout à l'heure à 18h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nos escapades continuent tout de suite en toute sérénité. Avec Shiva, ménage et repassage à domicile.
Et si on partait sur Europe 1, 2e heure, c'est l'été, il fait chaud, très chaud. C'est le moment parfait pour lâcher prise, se laisser emporter. Chaque jour, je vous emmène pour un grand voyage aux 4 coins de la planète. Et aujourd'hui, un pays qui a fait rêver des générations de voyageurs, Marrakech, Fès, les montagnes de l'Atlas, Essaouira sur l'océan. Décollage maintenant pour le Maroc.
16h, 18h.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et je vais vous emmener dans le désert, aux portes du Sahara, et vous emmener prendre un train qui est comme une aventure, un vrai train du désert. Ce train part de Bouarfa, à l'est du Maroc, et il file vers le nord, vers Oujda. Lorsque je l'ai pris lors d'un tournage des trains pas comme les autres, il n'y avait que des convois de marchandises qui circulaient sur cette voie. Alors, à bord d'un train de marchandises, en général, il n'y a pas grand monde. La plupart du temps, il y a un conducteur et c'est tout. Parfois deux, quand c'est vraiment la fête. Alors, je me débrouille pour être avec le conducteur du train. Nous partons de Bouarfa et très vite, les paysages sont à tomber par terre. Tout autour, des montagnes ocre, rouges, du sable, de la rocaille, personne, du vent qui déplace des petits tourbillons. Et puis, un petit peu plus loin, ce seront des étendues desséchées, plates, couleur sable, à nouveau de la rocaille à l'infini, juste dérangée par la voie ferrée, et quelques rares touffes de cette herbe sèche vert clair. Je me demande bien comment elle réussit à survivre ici. Il fait au moins 40 degrés. Le train roule tranquillement. Il transporte des wagons de minerais. Et le conducteur me dit que j'ai plutôt de la chance parce qu'il fait beau et qu'il n'y a pas trop de vent. Mais que le temps peut changer très vite et que le train doit parfois affronter des tempêtes de sable terribles et parfois même des pluies diluviennes dans le désert. Nous roulons, c'est parti pour plusieurs heures de voyage. Le spectacle de ce train solitaire au milieu du désert est magique. Et tout à coup, il freine brutalement. Alors je me demande ce qui se passe. Et le conducteur me dit, il y a du sable, regarde, il y a du sable sur la voie. Et donc je dis, c'est dangereux. Et le conducteur a l'air un peu hésitant. Donc je ose un petit conseil. Et je lui demande si on ne peut pas reculer, prendre de l'élan et forcer le passage. Et là, ça le fait bien rigoler pour le coup. Il m'explique que ça, ce que je viens de lui expliquer, c'est la meilleure technique pour faire dérailler un train. C'est impeccable. Et donc il rajoute, mais t'inquiète, il y a une équipe qui va s'occuper de ça. Et effectivement, je vois toute une petite équipe de 5-6 personnes sorties de nulle part. Ils arrivent avec des pelles et effectivement, ils se mettent à déblayer le sable qui recouvrait les rails devant le train. Et je vais vers eux, donc je leur fais un petit coup de main et puis on commence à discuter. Et je leur dis, mais vous arrivez d'où comme ça, en plein désert? Et là, ils me répondent, en fait, on est installé dans un wagon spécial au milieu du convoi entre les wagons de fret. Et on intervient quand il y a du sable. Et donc, je leur dis, mais alors votre boulot, c'est ça, c'est d'être dans le train en permanence et de dégager le sable quand il y en a? Ouais, c'est notre boulot. Dans tous les trains du désert, il y a une équipe qui est là pour dessabler. Oui, heureusement qu'ils sont là parce qu'il y a pas mal de sable sur la voie. Et donc, je leur demande combien de temps pour dégager la voie. Une heure ou deux. Mais ça peut prendre une nuit, voire deux jours quand il y a beaucoup de sable, selon les conditions. Voilà un drôle de métier. Et c'est même un métier dangereux, car il m'explique que dans le sable, il peut y avoir des scorpions et des serpents. Donc il faut faire attention. Mais le pire, à leurs yeux, c'est le vent. Parce que le vent projette du sable dans les yeux. Et je leur demande comment ils font, parce que c'est horrible, le sable dans les yeux. Et ils me répondent, il faut s'habituer. Et ce que je découvre aussi, c'est que les hommes du train du désert savent quand ils partent, mais jamais quand ils arrivent. Car quand il y a beaucoup de sable sur la voie à plusieurs endroits, le train peut mettre un jour, deux jours, quatre jours pour arriver à destination. Donc la petite équipe, elle doit dormir, vivre, manger, travailler à bord du train de marchandises qui de fait est un peu leur deuxième maison. Ils m'invitent à visiter la voiture qui leur est réservée et je découvre là tout un petit univers. Alors c'est tout simple, il y a le minimum, c'est un wagon avec d'un côté les couchettes et de l'autre une grande table, un réchaud et un petit buffet. Et ils m'accueillent, mais vraiment le cœur sur la main, très sympa, avec du thé, des chansons, ils se mettent à chanter. Et puis des petites pâtisseries qui m'attendaient dans le buffet, bien enveloppées dans de l'alu. Et je sens que ces hommes du désert forment une vraie petite famille, très soudée. Ils m'expliquent que ça fait longtemps qu'ils se connaissent, qu'ils passent plus de temps ici qu'avec leur famille, et qu'ils partagent ensemble les repas, les voyages, les aventures, les tempêtes, et tous leurs petits secrets. Eh bien, je vais vous avouer que souvent, je pense à ces hommes du désert. Ces hommes du désert d'un nouveau genre qui, complètement anonymes, roulent sûrement quelque part en ce moment au milieu des sables.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et encore plus de Maroc dans quelques secondes sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tous les après-midi sur Europe 1, grand voyage. Nous sommes aujourd'hui au Maroc jusqu'à 18h et en ligne, Anan Arat, journaliste franco-marocaine installée à Rabat. Donc elle est en ligne depuis Rabat. Bonjour.
Bonjour.
Quel temps fait-il au Maroc ? On a très chaud, nous, ici, en France.
Je pense qu'il fait chaud à Rabat, mais je pense, d'après ce que les infos que je vois à Paris, il fait quand même un peu moins chaud que chez vous. Une fois n'est pas coutume.
Ah bon, donc vous êtes au frais là-bas.
Oui, Rabat a cette chance d'être toujours au frais. On est, même en plein été, on est très épargné par les grosses chaleurs parce qu'on est au bord de l'Atlantique. Ça reste une ville très humide, donc c'est plutôt agréable.
D'accord, mais au frais, dites-moi, c'est combien ?
Aujourd'hui, on doit être à 29-30.
Ah oui, c'est un frais.
Mais c'est supportable c'est un frais quand on est en bord de mer.
Voilà, j'ai plus une chaleur supportable qu'un frais modéré. Alors moi, j'aime beaucoup le Maroc parce que c'est un pays vraiment assez incroyable en termes de variété. Là, on était dans le désert avec le train, mais on peut très vite, en quelques dizaines de kilomètres, se retrouver à la montagne, dans l'Atlas, avec de la neige, et puis à le bord de la mer. C'est extrêmement riche.
Absolument. S'il y a un mot pour qualifier les paysages et les atmosphères au Maroc, c'est bien celui-là, celui de diversité ou de pluralité. On a quand même 1900 kilomètres en tout de littoral, entre la côte nord qui est méditerranéenne et la façade atlantique. C'est plus de 3000 quand on inclut le Sahara, la côte atlantique qui inclut le Sahara. Donc c'est vraiment des paysages extrêmement variés. Par exemple, en étant à Rabat, en 2 heures, je peux me retrouver en pleine montagne, dans le Moyen Atlas, dans les environs d'Ifren, aller sur les pistes de ski, etc. Comme je peux en 4 heures me retrouver à Marrakech, en 6 heures à Ouarzazate, où on est déjà à moitié dans des espaces très rocailleux. Donc c'est vraiment effectivement une diversité incroyable, des paysages différents, des langues différentes.
Parce que selon les régions, il y a souvent des atmosphères différentes. C'est-à-dire que on peut passer de zones très très modernes à des endroits où on a l'impression que rien n'a changé depuis 50 ans. Donc non seulement c'est les paysages qui changent, mais c'est aussi les ambiances.
Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Et parfois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Vous pouvez être dans une mégalopole aujourd'hui comme Kazan, faire 30 kilomètres, vous retrouver dans l'arrière-pays, dans des petits villages où effectivement, on a l'impression que la modernité n'est pas encore arrivée, avec des ambiances très différentes. Au niveau linguistique aussi, on est à Rabat, une ville vraiment multiculturelle, parce que toutes les représentations diplomatiques sont ici. On a beaucoup de centres culturels où on brasse toutes les langues, où il y a des représentations de théâtre, etc., dans toutes les langues. Et en 3 heures, on se retrouve dans les montagnes de l'Atlas, avec déjà le dialecte berbère propre à cette région, avec des sonorités musicales différentes, même des costumes différents. Les vêtements changent. On peut vraiment être transporté d'un univers à l'autre en très peu de temps. C'est assez magique.
Et alors, ce qui est bien aussi très agréable au Maroc quand on s'y promène, c'est le sens du moment présent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on fait quelque chose, c'est important et on prend le temps de le faire. Je pense par exemple au repas ou aux choses comme ça.
Oui, c'est un euphémisme que de dire qu'on prend le temps.
Ouais.
Je le dis souvent, effectivement, moi au Maroc, ce qui m'a frappé quand j'y suis revenue, c'est vraiment cette attention portée à chaque moment agréable que l'on passe. Alors ça m'a un peu fait sourire au début, parce que j'avais quitté Paris où les gens couraient après le développement personnel pour réinvestir le moment présent.
Ouais.
Et en fait, au Maroc, les gens font ça de façon très naturelle.
Oui.
C'est-à-dire que quand on mange, on prend le temps de manger et on prend surtout la conscience du plaisir qu'on est en train de manger, ouais, de passer un moment agréable avec des amis, de se laisser porter par des conversations autour d'un verre de thé. Comme vous le dites d'ailleurs, avec ces hommes dans le train du désert, ouais, qui chantent et qui se retrouvent autour d'un moment de convivialité. Et ben au Maroc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que les gens sont beaucoup dans le quotidien. C'est assez récent, c'est l'irruption de la modernité avec des villes qui ont grandi très vite, une industrialisation qui est arrivée très vite, etc., qui fait qu'on s'est un peu détaché de ça. Mais beaucoup de gens vivent au jour le jour réellement d'un point de vue économique. Donc ça ne laisse pas beaucoup de place à la préoccupation de où on va être dans 6 mois ou dans même 3 mois. Donc cette attention portée au quotidien fait que en fait ça change tout simplement l'énergie d'une ville, l'énergie des gens. C'est très très différent de ce que j'ai pu connaître en France.
Jean-Bernard, je vous voyais rire, c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi au Maroc?
Oui,
ou
ouais, c'est cette culture du quotidien, le fait qu'effectivement on vit l'instant présent, et en fait moi ça me fait un bien fou.
C'est le secret du bonheur.
C'est le secret du bonheur, ouais, effectivement. Ce que dit Anan, qu'ici on recherche ça, on fait des efforts pour retrouver ce rythme-là. Là-bas, c'est naturel et c'est vrai que ça, c'est presque, en fait, c'est presque une thérapie de voyager au Maroc. Ouais. Ouais.
Et c'est vrai, on parlait des repas. Et c'est vrai que, vous me direz si j'ai raison ou pas, mais j'avais l'impression que à partir du moment où les gens se rendent compte qu'ils passent un bon moment avec vous, mais il n'y a plus que ça qui compte. Et du coup, même si ils ont un rendez-vous après, il l'oublie. Après, évidemment, c'est pas cool pour ceux qui attendent de l'autre côté, mais il y a comme ça une espèce de dilatation du temps autour du plaisir.
Et puis il y a une chaleur humaine aussi qui est permanente. Ça fait du bien.
Vous restez avec nous surtout pour continuer à parler du Maroc. On va d'ailleurs rester au Maroc jusqu'à 18h. Vous êtes journaliste, je le rappelle, franco-marocaine installée à Rabat. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes au Maroc jusqu'à 18h sur Europe 1 et je ne vous cache pas que dans ce pays, moi j'ai une grosse tendresse pour le désert et j'ai fait là-bas une rencontre dans un désert un peu mi-sable, mi-rocaille, avec toujours ces petits tourbillons de vent qui passent dans le lointain, les montagnes ocre sur l'horizon. J'ai rencontré là-bas un éleveur de chameaux et plus exactement un éleveur de dromadaires, parce que là-bas, ces animaux n'ont qu'une seule bosse. Il avait une soixantaine de dromadaires autour de lui, des bêtes paisibles en train de paître quelques touffes d'herbe de ci, de là. Alors, oui, je les reconnais, c'est eux.
Ils vous ont reconnu aussi.
Alors, il faut savoir qu'un troupeau de dromadaires, pour un éleveur, c'est une richesse, c'est un patrimoine, c'est comme un placement familial qu'on se transmet soigneusement de père en fils. Et l'éleveur, il voulait absolument qu'on aille voir un de ses animaux. Il voulait m'expliquer son amour pour ses bêtes. Donc, on essaie de s'approcher des dromadaires, qui donc doucement s'éloignent. Donc, on s'approche doucement encore plus. Et donc, il s'éloigne encore plus. Et ainsi de suite.
C'est un peu tordu comme animal. Hein.
Alors, je vais vous donner la technique pour approcher vraiment un dromadaire. Je vous la donne parce que ça peut vous servir. On ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Ce qu'il faut faire, c'est avancer un tout petit peu plus vite brutalement que le dromadaire et lui attraper la queue, sans tirer, hein, juste attraper légèrement la queue du dromadaire. Le seul fait de lui toucher la queue en douceur, il s'arrête tranquillement. Voilà, c'est le secret. La queue du dromadaire, c'est le frein à main du dromadaire.
C'est un scoop, je ne sais pas.
Nathalie est hilar.
Oui.
Et une fois tout prêt, c'est assez sympa comme animal parce que c'est tout doux et ces dromadaires-là étaient vraiment adorables et ils aimaient bien se faire papouiller derrière les oreilles. Et l'éleveur que j'ai rencontré avait vraiment une relation très très forte avec ces animaux. Son truc à lui, c'était la douceur. Il était convaincu que le dromadaire était un animal très doux, très sensible et qu'il ressent les émotions de l'être humain. Et que donc, pour avoir de bonnes relations avec les dromadaires, il faut être doux, décontracté et leur faire des bisous.
Ah,
ouais.
Ah oui?
Oui, il leur faisait, mais je vous assure, tout est vrai, il leur faisait des bisous dans le cou et sur les lèvres. Donc il m'a montré comment on faisait. Et j'ai même testé. Et
vous embrassez un dromadaire sur la bouche.
Et j'ai testé le bisou au dromadaire. Je ne vous cache pas, j'ai fait juste les lèvres.
La bouche la plus sexy du désert.
Mais les lèvres du dromadaire restent fermées, je vous rassure. Donc c'est, ça reste calme, c'est pas vraiment langoureux. Et le plus surprenant, c'est que quand le dromadaire... Mais tout ce que je vous dis est vrai, tout le monde rigole. Tout est vrai. Et le plus surprenant, c'est que quand le dromadaire se met à faire pipi... Ce qui arrive quand un animal...
Au moment où on l'embrasse.
Quand un animal se sent... L'illustration sonore est très réaliste. L'animal se sent détendu près de vous, ça peut arriver. Et donc, l'éleveur, dans ce cas-là, se dépêche, il va derrière l'animal et il se lave les mains dans l'urine chaude qui sort du dromadaire. Il s'est dépêché comme si c'était un moment à ne pas rater. Alors, ça m'a quand même étonné, un peu comme vous. Et ça aurait pas été mon premier réflexe d'aller faire ça. Et il me dit, mais dépêche-toi, viens faire pareil. Et donc j'y vais, un peu dégoûté.
Un reculon.
Donc je fais un creux dans mes deux mains, ça se remplit. Et la sensation est pas désagréable, c'est chaud, c'est un peu huileux. Je frotte mes mains. Et l'éleveur me dit, mais dans la région, c'est connu, c'est un excellent désinfectant naturel, ça nettoie les petites blessures sur les mains, ça fait cicatriser et surtout, c'est très bon pour la peau, regarde, ça fait la peau douce. Et c'est vrai que ça fait la peau douce, je vous confirme. Et il m'explique qu'il ne rate pas une occasion de se faire un soin des mains comme ça dans le désert. Alors, je dois quand même vous avouer un truc, c'est que oui, ça fait les mains douces, en revanche... On ne peut pas dire que ça désodorise.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Anna Rat, vous êtes journaliste franco-marocaine à Rabat. Vous avez essayé la technique pour les mains ?
Non, je n'ai pas eu cette chance.
Ben alors,
si on peut dire.
Vous connaissiez ?
Non, je ne connaissais absolument pas. Je connais le désert, mais je ne connaissais pas cette technique de soin des mains.
Ah, mais je vous assure, et d'ailleurs, on ne va pas parler pendant 2 heures de l'urine de chameau, mais ça a des vertus reconnues et qui sont parfois utilisées dans certains cosmétiques. Donc, enfin, je ne vais pas développer pendant 2 heures.
C'est bon à savoir.
Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous allez dans le désert ? Ça vous fait quelle impression ?
Ah, le désert. Le désert, je l'ai découvert pour la première fois il y a une quinzaine d'années. En fait, c'est assez étrange parce que il y a eu une peur. Le premier contact, ça a été une peur parce que je suis arrivée de nuit. Enfin, la nuit était en train de tomber. Donc, il y a une étrange sensation de solitude totale, de perte de repère. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Il y a juste la lumière des étoiles qui éclaire très bien d'ailleurs. Et puis après, très vite, on a une sensation, moi je dirais, c'est comme une sensation de début du monde en fait. Ouais. Comme si tout commençait là. Il y a une dimension mystique qui est très forte. Et quand je dis mystique, c'est totalement indépendant de toute foi ou de toute croyance, c'est plutôt en termes de vraiment d'énergie. C'est un lieu qui est habité, le désert. Par quoi ? Je ne sais pas. Mmh. Mais en tous les cas, on sent une présence très forte qui donne le sentiment que tout commence là. Et puis la deuxième chose, c'est que le désert est un endroit sec, aride, inhabitable et souvent inhabité, hostile. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a une énergie de vie incroyable qui émane de cet endroit. Mmh. Et la première fois qu'on se réveille au sommet d'une dune pour voir le soleil se lever, je crois que quand on l'a connu, on ne peut plus jamais l'oublier. Et puis surtout, on devient addict.
Ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-Bernard.
Complètement, mais ça vous rentre par tous les pores de la peau et ça vous reste gravé jusqu'à la fin de vos jours, cette expérience-là.
Ouais. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que dans les déserts, on a l'impression d'être protégé, entouré par quelque chose, alors qu'il n'y a rien. Et c'est vraiment la magie du désert. Mais vraiment, je partage avec vous ce que vous avez décrit, c'est vraiment ça. On reste ensemble, Anan Arat. Dans un petit instant, on va écouter Nathalie Elal et les histoires insolites qu'elle a trouvées au Maroc et à Tanger. Juste auparavant, un petit Lewis Capaldi, Before to Go sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes au Maroc jusqu'à 18h. Nous explorons ce pays et nous allons plus au nord du Maroc maintenant, dans une ville qui sent le mystère, une ville de légende, plus ou moins trouble, à Tanger, Nathalie Elal.
Oui. Alors, on parle souvent du Caire, ni d'espion. Hein. D'ailleurs, il y a un film. Ah ben voilà, la musique arrive. Le film The OSS 117, le Caire, ni d'espion, avec Jean Dujardin, signé Michel Hazanavicius. Mais en fait, sachez que Tanger n'a absolument rien à envier à la capitale égyptienne. Parce que pendant des décennies, Tanger a été un paradis pour les espions internationaux,
ah ouais,
avant d'inspirer plus tard les auteurs et les directeurs de films d'espionnage. Et oui, parce que Tanger, c'était un refuge sûr pour les étrangers qui venaient de tous les horizons grâce à son implantation géographique. Elle était surnommée le Gibraltar africain, Tanger, Tanja en arabe. Tout au nord de l'Afrique, face à la pointe de l'Europe, elle se trouve au croisement de l'Atlantique et de la Méditerranée dans une baie. Et donc c'est cette position exceptionnelle et stratégique qui a fait pendant longtemps de cette ville un vrai lieu de convoitise internationale.
Mais pourquoi de convoitise? On comprend sa position stratégique, mais pourquoi?
Ben justement, parce qu'elle est à 14 km des côtes espagnoles, ouais, et parce que c'est la porte d'entrée de l'Afrique. Donc c'est la ville charnière entre deux mondes, entre deux mers, autant dire une place commerçante, commerciale importante.
Ouais.
Et déjà au XVIIe siècle, la ville est sous contrôle à l'époque de l'Angleterre et les Espagnols vont tout faire pour la reprendre parce que c'est une ville qui sert leurs intérêts commerciaux. Donc il y a les premières opérations d'espionnage qui sont signalées à l'époque. Mmh. Les Espagnols répandent des rumeurs. Ils vont raconter que les navires anglais qui proviennent de Tanger porte la peste à bord,
ah ouais,
ce qui force les bateaux de Charles II, le roi d'Angleterre de l'époque, à entreprendre un dangereux voyage du Maroc vers les côtes anglaises. Vous imaginez, c'est comme si vous aviez un bateau chargé de cas de Covid.
Ouais.
C'est un peu ça, hein, dans
ouais,
le contexte.
Ouais. Et ça a continué, cette réputation sulfureuse?
Oui, parce que dès le 19e siècle, les grandes puissances continuent à se la disputer sans parvenir à un accord. Et puis, on arrive à des négociations très importantes, surtout autour des années 1920-23. Et puis, en juillet 1925, eh bien, le statut définitif de Tanger est signé par plein de pays. L'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, la Hollande, les États-Unis, le Portugal, l'Union soviétique et la France, auxquels se joindra l'Italie un peu plus tard.
Mais alors les espions? Ils sont où?
Ils sont partout dans les cafés, dans les ruelles étroites où on se perd et où on règle ses comptes. Et on sait par exemple que peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien les États-Unis avaient construit l'une de leurs principales radios américaines juste au sud de Tanger. Et bien sûr, comme on est dans un contexte déjà de guerre froide, pour riposter, eh bien l'Union soviétique avait annoncé son intention de construire une banque à Tanger afin de canaliser l'argent qui était destiné aux nationalistes marocains.
Ah.
Je vous rappelle que l'indépendance du Maroc, c'est en 1956. Hein. Et on sait aujourd'hui que les troubles civils contre des Occidentaux à Tanger avant et juste après l'indépendance du Maroc, eh bien, ils ont été provoqués par des agents russes. Vous imaginez le contexte?
Quelle salade!
Oui, quelle salade! Absolument.
Alors du coup, côté film, ça a donné des choses?
Oui, alors il y a un film célèbre qui s'appelait Espionnage in Tangier, qui était aussi sorti sous le nom de Marc Matto, Agente S077. C'était un film d'espionnage célèbre sorti en 1965, un film d'espionnage hispano-italien. Ensuite, il y a eu un autre film, non pardon, juste avant, Espionne de mon cœur. Alors là, on est dans le romantisme, l'espionnage, l'amour, le sexe, enfin tout ce qui va bien, quoi. Ça s'appelle donc Espionne de mon cœur avec Bob Hope et Eddie Lamar, la sublime Eddie Lamar. C'est l'histoire d'une usurpation d'identité dans le but d'acquérir un microfilm $1 million à Tanger. Tous les clichés y sont. Et puis plus récemment, en 2007, La vengeance dans la peau avec Matt Damon, qui a été à la fois acteur et réalisateur. C'est un thriller d'espionnage qui est venu en fait renforcer l'ancienne réputation de Tanger, l'histoire d'un agent secret assassin de la CIA qui a perdu la mémoire de sa vie passée après une mission secrète et qui se rend à Tanger sur la piste de son passé. Enfin, un truc improbable. Voilà, c'est l'histoire de Tanger. Je trouve que c'est assez fascinant de penser que c'est un nid d'espions.
Ouais, vous avez une réputation sulfureuse sur cette ville. Anna Narat, vous êtes journaliste, vous êtes en direct de Rabat. Comment est Tanger aujourd'hui, elle qui porte une réputation comme ça, comme vient de le décrire Nathalie, assez sulfureuse?
Alors, Tanger est une ville absolument... si un symbole du cosmopolitisme, c'est bien Tanger, en raison de cette histoire. Hein, Tanger n'a jamais été, même à l'époque du protectorat français, elle a toujours échappé à ce statut-là, parce qu'elle avait ce statut de ville internationale. Et puis, au-delà du caractère nu d'espion, etc., c'est aussi une ville qui a brassé toute la génération beatnik. Ouais. Beaucoup d'écrivains très célèbres, Paul Bowles s'est passé par là, Jean Genet a passé beaucoup de temps ici, Roland Barthes a passé beaucoup de temps à Tanger. Donc c'est une ville qui a brassé des cultures, des identités extrêmement diverses. Et juste une petite précision par rapport au côté espion, il y a un endroit fabuleux qu'il faut absolument voir à Tanger, qui s'appelle la Villa Miramonte, qui a été créée, construite par un industriel français qui avait fait fortune pendant la Deuxième Guerre grâce au commerce avec l'Espagne, etc. et notamment aussi les États-Unis. Et quand on rentre, on a vraiment l'impression en un instant, en un clin d'œil, d'être projeté dans un film des années années 40, des années 50. Tout est gardé exactement pareil. Les meubles, les objets. Il y a des livres qui datent de l'époque avec le Portugal, etc. Enfin, c'est un endroit absolument magnifique.
Dans la ville, comment est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une ville agréable pour se promener ? À quoi ça ressemble ? On a du mal à imaginer Tanger.
Alors, Tanger est à l'image de beaucoup de villes au Maroc qui font ce grand écart entre des constructions et des infrastructures très modernes. Aujourd'hui, Tanger a fini une grosse partie de son réaménagement. Il y a une marina avec des yachts absolument fabuleux, une promenade avec des grands restaurants, des boutiques où les Tangérois vont se promener le soir. Il y a un côté donc extrêmement moderne, une gare maritime donc pour aller de l'autre côté vers l'Espagne qui a été refaite à neuf. Toute la gare maritime commercial a été mise à l'extérieur de Tanger.
Mais est-ce qu'il y a encore un Tanger dans son jus, un Tanger plus mystérieux?
Il y a la Médine, hein. Oui, il y a aussi. Il y a tous ces lieux, comme je le disais, littéraires, les cafés, les librairies, comme l'ancienne librairie Gallimard, qui s'appelle aujourd'hui la librairie des colonnes, qui survit encore et qui est un véritable lieu de mémoire culturelle et littéraire dans la ville. Donc il y a la mémoire aussi de ce passé cosmopolite. Et puis il y a la Médina aussi de Tanger, parce que comme toutes les villes marocaines, il y a une Médina, c'est le cœur de l'ancienne ville, contrairement aux quartiers européens plus modernes. Et la Médina de Tanger, comme sept autres médinas du Maroc, est aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, on y retrouve cette vie tellement typique des médinas, avec des commerces très anciens, une architecture typique, et puis aussi une atmosphère comme on en retrouve beaucoup dans les médinas.
Ouais, c'est-à-dire c'est ce labyrinthe de ruelles un peu sombres, protégées du soleil, dans lesquelles on se perd. Et c'est vraiment une atmosphère incroyable.
Oui, absolument. Les médinas, c'est très particulier. Après, certaines ont des identités beaucoup plus fortes, comme Fès, qui est une ville très spirituelle, avec un passé de savoir. C'est quand même la ville qui abrite la plus ancienne université du monde, la Qaraouine, qui date, je crois, de la fin du 9e siècle, créée par une femme, il faut le rappeler, puisque c'est assez rare. Et donc, la médina de Fès est beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus. Il y a les odeurs de l'encens, il y a beaucoup de médersa coranique, etc. Il y a d'autres médinas qui sont plus commerçantes, plus touristiques. Mais partout, on retrouve ces ruelles, ces commerçants qui vous attendent avec un verre de thé, qui parfois juste pour le plaisir de converser. C'est vraiment, moi à Rabat, je vais aussi à celle de Rabat, qui est aussi au patrimoine de l'UNESCO, mais c'est vraiment par plaisir, c'est même pas pour acheter, c'est juste parce que c'est un petit moment hors du temps, où on en prend plein la vue, plein le nez, et où on fait toujours des rencontres amusantes.
Merci beaucoup Anna Narat de nous avoir raconté votre Maroc. À une prochaine, j'espère, sur Europe 1.
J'espère aussi.
Au revoir. Dans un petit instant, toutes les bonnes saveurs à la bonne cuisine du Maroc avec Emmanuel Jarry et bien sûr toute la bande de voyageurs. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Et si on partait ? Philippe Googler.
Ah oui. Nous sommes au Maroc.
Avec le chameau de Philippe.
Nous sommes au Maroc et avec Emmanuel Jarry pour parler de la cuisine et des bonnes saveurs du Maroc. Donc j'espère que vous avez préparé quand même un bon couscous.
Ah bah oui, c'est une cuisine... oui, je ne peux pas faire l'impasse sur le couscous. Bah mais alors c'est vraiment une cuisine qui est très, très riche. Elle se nourrit de plusieurs influences, la cuisine marocaine. C'est la cuisine berbère, évidemment. Ouais. C'est la cuisine juive. Mais c'est la cuisine juive berbère, parce que les juifs étaient là avant l'arrivée des Arabes. C'est la cuisine arabo-musulmane d'Andalousie. Et puis, bien sûr, la France a laissé des traces. Mais il y a une influence dont on parle un peu moins et qui a été aussi très importante, ce sont les dadas.
Les dadas ?
Alors, les dadas, c'était ces femmes esclaves venues de l'actuel Mali.
Femmes esclaves ?
Oui. Et qui travaillaient dans les familles marocaines depuis le 17e, je crois qu'elles sont arrivées au Maroc. Et or, la cuisine, d'ailleurs, au Maroc, c'était avant tout une histoire de femmes. On dit c'était des grandes cuisinières. On ne parlait pas de chefs cuisiniers. Ça, c'est arrivé dans les années 80. Donc, de grandes cuisinières qui pouvaient être ces femmes, ces dadas esclaves, qui étaient nounous, qui étaient cuisinières dans les familles. Vous savez, souvent, quand on parle des esclaves, on parle des hommes. Mmh. Et on peut parler, par exemple, de la musique, qui était leur moyen de s'exprimer. Mmh. Et bien, ces femmes, c'était la cuisine. Parce que quand on a plus le droit à la parole, il faut bien qu'on s'exprime d'une certaine manière. Donc voilà, c'était à travers les plats, la cuisine, un mode d'expression. Et elles ont évidemment appris la cuisine marocaine, mais elles ont aussi
apporté leur propre cuisine. Alors par exemple, un des produits qu'elles ont apporté, c'est le gombo, ce petit légume vert qu'on retrouve beaucoup en Afrique subsaharienne et qui a une texture un petit peu gluante. Et un exemple de plat marocain qui symbolise bien ce mélange des cultures, c'est le tagine de coin et de gombo.
Ah, oui.
Et ces femmes aussi, elles préparaient par exemple un plat qui est devenu rare, c'est le couscous de riz. Alors le riz, parce qu'elles consommaient plus de riz que de semoule en fait dans leur pays, alors elles cuisaient le riz à la vapeur, c'est pour ça qu'on dit que c'était un couscous, elles l'agrémentaient de légumes cuits au bouillon, et puis elles disposaient le riz en dôme, elles plaçaient la viande dessus et les légumes tout autour.
C'est pas du tout le couscous qu'on connaît en fait.
Exactement. En fait, on connaît nous surtout le couscous aux 7 légumes qui est servi avec le blé dur. Alors ça, c'est un couscous qui est quand même important, parce que d'abord il est très sain, c'est un mélange de céréales, la semoule, de légumes et de légumineuses apportées par les pois chiches.
Donc, ça ravit les diététiciens.
Ah non, mais ça c'est vraiment... d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on a créé ce plat, hein, parce qu'au fil des siècles, c'est l'intelligence comme ça qui s'est fait. Donc voilà, c'est des protéines végétales. À Essaouira, par exemple, on a un couscous avec de la semoule de maïs. On trouve parfois aussi un couscous aux cheveux d'ange. Alors ça, c'est assez peu connu. C'est un couscous avec, vous savez, ces petits vermicelles, là, ces pâtes. Donc là, toujours cuit à la vapeur, on prépare des pigeonneaux ou par exemple du poulet fermier avec des amandes, avec des raisins secs, avec des oignons caramélisés. Et puis quand le vermicelle est cuit, on pose les volailles, les pigeonneaux dessus, on met toute la garniture et on couvre avec le vermicelle très beurré et on décore avec de la cannelle, du sucre glace. Et donc on a l'impression d'avoir un gros gâteau alors qu'en fait c'est un plat salé.
Du sucre glace
beaucoup. Ouais, y a beaucoup de mélanges sucré-salé au Maroc. Ouais.
Ça, je suis moins sûr que ça ravisse le diététicien. Et on peut retrouver tous ces plats dans tout le Maroc? Comment ça se passe?
Alors pour certains, on les retrouve. Par exemple, si vous allez dans le sud du pays, à Taroudan, les femmes préparent un couscous avec des figues laiteuses. Alors quand quand les figues tombent, moi je dis le figuier rejette certaines figues qui n'arrivent pas à maturité, ben les femmes les ramassent et elles servent comme ça le couscous avec ses fruits. L'hiver, parce que le couscous c'est un plat qui dépend des régions, c'est un plat aussi qui dépend des saisons, donc l'hiver il y a le couscous aux fans de navets, alors dit comme ça, ça paraît pas...
Aux fans de navets?
Ouais. Et alors, en fait un très très bon couscous. Il y a aussi le couscous d'orge verte, qui a un goût particulier, l'orge de noisette. Ouais. L'orge est aussi une céréale très bonne pour la santé, et c'est un plat rustique qui a un goût très puissant, on l'accompagne de légumes. Alors cette diversité incroyable, elle tend évidemment à se perdre un petit peu, mais il y a une femme qui défend ce patrimoine qu'elle connaît très bien. Cette femme, c'est Fatema Al. Elle a un restaurant à Paris où elle sert le couscous de Casablanca, elle sert le couscous de Fès, elle sert des couscous de légumes, elle sert des couscous de viande. Donc voilà, elle défend cette mémoire culinaire et son restaurant s'appelle le Mansouria, c'est le prénom de sa mère. Alors je lui ai demandé quel était le plat qu'elle aimait de sa mère, que sa mère lui cuisine quand elle était enfant. Alors on l'écoute.
J'ai un souvenir de plat qu'elle faisait, qu'elle a gardé précieusement. C'est un plat très très fort qui est la sfiria. Et en fait, c'est un plat qui nous vient du XIIe siècle. C'est de l'agneau presque roussi. C'est-à-dire qu'en fait, il est roussi, il est croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et il est servi avec un flan d'amande. Mmh. C'est vraiment impressionnant.
Voilà, la sfiria. Ouais, 12e siècle. La sfiria. Alors voilà encore un plat peu connu. On peut le déguster au Mansouria sur commande et elle m'a dit que peut-être elle envisageait de le mettre à la carte à l'automne. Ouais. Alors dans ce restaurant, on déguste aussi beaucoup d'autres grands plats marocains. Alors j'ai déjà évoqué tout à l'heure le tagine de coin et de gombo. Et je suis obligée évidemment de parler un petit peu de la pastilla parce que je sais que Jean-Bernard Carrière du guide Lonely Planet, vous aimez.
Mais pas le seul, hein. Ça, j'en
vous aimez aussi. Ce plat.
Ah, ouais. J'adore ça.
C'est vite addictif, hein.
Ah, moi, je trouve ça un peu lourd. Moi.
Ah, mais oui, mais...
Après une bonne randonnée dans le Toubkal,
voilà,
c'est ça.
Exactement.
Bien, ça.
Mais non, mais c'est vrai que je ne vais pas le défendre comme un plat léger. Alors, c'est une pâte à filo et à l'intérieur, on met du pigeon ou du poulet et on le mélange avec des amandes, des oignons, des épices. Et voilà. Moi, je dis que c'est un plat baroque parce qu'il y a toutes ces saveurs qui se mélangent. Et alors, on a déjà dit il y a ce goût sucré-salé. Et ça, c'est très important dans la cuisine marocaine. Je crois que la cuisine marocaine, c'est ce que me disait Fatema Al, c'est la cuisine qui est la plus riche en saveurs sucrées-salées. Il ne faut pas confondre avec la cuisine asiatique qui mélange l'aigre-doux, donc plutôt l'acidité avec le sucré. Là, au Maroc, on a vraiment ce mélange de sel et de sucre.
Merci beaucoup, Emmanuel Jarry.
On s'est régalé.
On s'est régalé, on a faim maintenant, c'est malin. On va retrouver dans un petit instant Jean-Bernard Carrier et tous ses bons conseils pour visiter le Maroc. Et là, on va se détendre un petit peu avec Ismaël Lo, qui est un chanteur né au Niger. Et voici un titre tiré de l'album Ismaël Lo qui s'appelle Tajabone. Et on se retrouve sur Europe 1 dans quelques instants dans Et si on partait ? À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, et si on partait, Philippe Googler.
Nous sommes au Maroc, et maintenant, il est temps de passer aux choses concrètes, les bons conseils, les bons coins, les astuces de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet pour explorer le Maroc. Nous serons rejoints aussi par François Clos. Qui,
je suis là.
Il est là. Il est là depuis un autre studio.
Très attentif.
Très attentif parce que François Clos, on ne plaisante pas, Jean-Bernard, faites attention à ce que vous allez dire, parce que François Clos habite le Maroc depuis plus de 3 ans.
Ah.
Et il a envie de nous donner aussi ses bons tuyaux.
Ah, c'est parfait.
Alors, on commence par qui, François Clos ou Jean-Bernard? Allez, Jean-Bernard.
C'est vous le chef.
Bon. On a parlé des Médinas tout à l'heure avec Hanan. Ouais. Vous avez dit que vous préfériez Fès. Vous avez adoré Fès.
J'adore Fès. Ouais,
dites-moi pourquoi déjà.
Parce que je trouve que les ruelles, le labyrinthe qui forme la Médina de Fès est incroyable, inextricable. Ouais. On peut être perdu. Il y a des impasses dans ces ruelles. C'est-à-dire qu'on peut marcher longtemps puis se retrouver sur un mur et puis devoir faire demi-tour et on se perd. Et j'adore la sensation.
Alors moi j'ai préféré la Médina de Chefchaouen. Chefchaouen, c'est la Perle du Rif, dans le nord du pays. C'est une ville qui est bâtie à flanc de colline. Alors, c'est une ville qui est plus petite, avec une médina qui est plus confidentielle, plus intimiste que celle de Fès. Il y a plein de passages tortueux, là aussi, mais il y a moins de risques de se perdre, à la différence de la médina de Fès, qui, elle, est effectivement, vous l'aviez, un vrai labyrinthe inextricable. Ouais. Moi, j'ai pas trop aimé celle de Fès, j'ai trouvé trop intimidante. Voilà.
Ah bon? Vous avez eu peur?
Oui, vrai, le côté... On peut réellement se perdre. Il faut un GPS, et puis les gens...
Mais le GPS ne passe pas dans la médina.
Voilà, il faut une boussole. Il faut une boussole. Ou alors, c'est les enfants qui vous guident, ou qui vous guident mal. Là, en revanche, à Chefchaouen, dans cette médina, on peut se balader seul, sans problème. Et surtout, ce qu'on n'a pas fait, le grand attrait de la médina de Chefchaouen, c'est la couleur. Le rez-de-chaussée des maisons est peint d'un magnifique bleu très lumineux, très photogénique, et les toits en tuiles sont en terre cuite de couleur ocre. Ça, c'est quand même unique en son genre, c'est très photogénique, je l'ai dit. Et on retrouve bien sûr aussi cette petite ambiance des médinas avec les petits métiers, les ateliers qui donnent sur la rue, mais en plus tranquille qu'à Fès, encore une fois, Philippe, vous voyez.
Alors ça, c'est pour les médinas. François Clos, vous qui allez présenter le grand journal du soir, tout à l'heure à 18h, vous habitez au Maroc depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous avez un coin préféré dans ce pays, une route, une montagne, un village?
Ah, mais c'est un pays qui est d'une telle richesse qu'il est très, très difficile de choisir. Mais il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de parcourir toute la grande route qui descend à l'est du pays, là, du nord au sud, en partant de Meknès pour arriver jusqu'au désert. Meknès, ville royale, absolument magnifique aussi. Et là, en 6 heures ou 7 heures de voiture, vous qui aimez les trains, vous aimez sûrement les road movies aussi, vous passez de paysage en paysage, c'est-à-dire on est à plus de 2500 mètres d'altitude dans l'Atlas, ce sont les forêts de cèdres, il y a des singes sauvages dans ces forêts, puis vous vous retrouvez quelques minutes après sur un immense plateau, un désert de pierre qui peut rappeler la Mongolie par exemple, et puis vous descendez doucement et vous tombez sur ces espèces d'extraordinaires canyons de pierres rouges d'où émergent des palmiers verts et d'anciennes casbahs pour arriver au bout de la route au pied d'une magnifique dune, celle de Merzouga au pied du désert, et vous avez en 6 heures ou 7 heures de route traversé plusieurs pays et une immense sensation de voyage formidable.
Ah, c'est extraordinaire, tout à fait. Qu'est-ce qui vous plaît tant que ça dans l'atmosphère du Maroc? Pourquoi vous restez là-bas?
Cette diversité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays en un. On va passer quelques heures sur l'Atlantique du côté d'Essaouira. Si on va plus au sud, même à Darla, encore plus saisissant. On a le désert, on a la montagne, on a une ambiance méditerranéenne au nord. On a des grandes médinas, des grandes villes vivantes. J'adore également Chefchaouen, dont parlait Jean-Bernard à l'instant. C'est cette variété de sensations qu'on a sur un territoire finalement aussi peu étendu. Et ça, c'est magique.
Ouais. Alors comment vous faites, François? Vous faites l'aller-retour sans arrêt entre Paris et le Maroc?
Non, mais on n'insiste pas, j'ai un bilan carbone désastreux. Mais désastreux. Non, c'est une expérience de vie à durée limitée, mais qui m'a permis de côtoyer ce pays et de sortir des sentiers battus. Voilà, on va dire aux Français, essayez de ne plus aller à Marrakech. Quoi.
Ça, ah bah oui, Marrakech, je vous rejoins tout à fait,
Marrakech est gâché maintenant. Allez à Essaouira, allez voir les remparts de Taroudan. Sortez de ces chemins battus pour découvrir un vrai Maroc, là, porté par son histoire singulière et par cette géographie qui est si riche, quoi, si particulière.
Ouais. Merci François Clos, on vous retrouve dans un petit
plaisir.
Instant.
Alors, je vais vous écouter aussi.
Alors justement, François a parlé de Meknès. Moi, j'adore cette ville. C'est une ville qui est discrète, paisible, très détendue, avec une superbe architecture impériale. C'est une ville impériale, avec des fortifications magnifiques autour de la vieille ville. Et dans les souks de Meknès, on trouve un artisanat d'art très pointu, comme je les aime. Il s'agit, mes amis, du damasquinage à l'argent. Ça veut dire quoi? Ce sont des objets en métal qu'on incruste de filets d'argent, et c'est la spécialité de Meknès. Ça fait des superbes souvenirs à rapporter, dont des bijoux, Nathalie, par exemple.
Vous avez pensé à moi, donc. Voilà, merci, Jean-Bernard.
Et quand je me suis baladé à Meknès, j'ai eu une bonne petite faim quand même, parce que ça fatigue, hein, les visites dans les souks et les médinas. Je suis passé au marché couvert, et là j'ai vu une montagne, une pyramide de pâtisseries orientales, dont les ribia sont les sortes de macarons, et les fameuses corne de gazelle. À ce damné, à mon retour, je me suis fâché avec ma diététicienne, mon cher Philippe.
Près de Meknès, il y a un site dont j'adore le nom, rien que pour le nom, c'est Volubilis.
Et ben, à une trentaine de kilomètres au nord de la ville, c'est un site antique, des ruines romaines. On parlait de diversité, ben voilà, il y a même des ruines romaines en très bon état de conservation à Volubilis, donc au nord de Meknès. On se croirait vraiment dans une ville romaine. Il y a un arc de triomphe, les thermes, le forum, et aussi des splendides mosaïques, dont une qui représente Bacchus, le dieu du vin, dans un char tiré par des panthères. Ça, c'est ma préférée. Nathalie, sachez même que sur ce site antique, on a retrouvé une maison close qui se visite. Cette maison close servait aux guerriers quand ils revenaient fatigués du combat.
Je ne pas d'aller voir ça.
Et alors, du côté des oasis, on n'a pas parlé d'oasis encore.
François a évoqué la ville de Ouarzazate. Ouais. Dans les montagnes de l'Atlas, on part de Ouarzazate, on suit la route qui s'appelle la N9 vers le sud-est, et on descend toute la vallée du Dra. Sur 250 km, c'est un pur bonheur. Vous traverserez des palmeraies et des oasis qui se succèdent au milieu de paysages arides. C'est l'Atlas quand même.
Fleurs,
et les amandiers en fleurs. Alors, mon arrêt préféré, je vous le donne, c'est le village de Tamnoulgat. C'est un ksour, c'est-à-dire un village fortifié. Imaginez des maisons en terre crue perchées sur une butte. Tout autour de cette butte, il y a une immense palmeraie au vert très sombre et en arrière-plan les montagnes de l'Atlas. Et en fin d'après-midi, lorsque le soleil décline, c'est un régal pour les yeux. Vous avez cette belle lumière chaude et rasante qui vient chatouiller les verts des palmeraies et sublimer les ocres de cette montagne sur un fond de bleu azur du ciel. Tout semble se fondre dans un tableau féerique. Tamnoulgat.
On a envie d'y aller maintenant, c'est malin. Et alors, si on rêve de dunes, on peut vraiment vivre les dunes au Maroc, dunes du désert.
Et y a vraiment, il suffit de continuer cette fameuse N9. On va jusqu'au terminus de la vallée du Dra. Et là, on arrive dans le Sahara. C'est les premiers contreforts du Sahara. Et j'adore, moi, l'erg Chigaga. C'est une mer de sable doré qui fait 40 km. Ces dunes, elles forment des croissants qui sont très photogéniques et très impressionnants. Il faut quand même jusqu'à 300 mètres de haut. Ce n'est pas des dunettes, c'est vraiment des vraies dunes. Et on s'y balade en méharé. La méharé, c'est une randonnée chamelière, ou avec un dromadaire, si vous voulez. Et on
pourquoi
y fait des circuits
fait
à la demande.
Non, je pensais au frein à main, la queue du dromadaire qui est le frein à main.
Mais c'est grâce à ce dromadaire que vous pouvez faire l'expérience. Alors on ne monte pas sur le dromadaire, hein, il sert à transporter le matériel. Voilà, et on se retrouve dans ce désert, comme l'a dit Hanan, avec une expérience mystique, se retrouver face à soi-même. Il y a quelque chose d'un petit peu hallucinatoire presque dans cette expérience-là. Et puis le soir, ce que moi j'adore, c'est se retrouver au campement, autour du feu, petite musique que font les guides, et on s'endort dans la tente berbère ou bien à la belle étoile, sous un ciel nocturne incroyable, avec une constellation d'étoiles qui ressemble à des guirlandes.
Juste pour finir très vite, on n'a pas parlé non plus de la façade atlantique, beaucoup. Vous avez un coup de cœur sur la façade atlantique?
Alors, tout le monde parle d'Essaouira. Ben, moi, je préfère descendre un petit peu plus au sud, aller à Sidi Ifni, ambiance un petit peu branchée, belle maison d'hôte, là, des tarifs tout à fait adorables. Des belles plages, ambiance relaxe. Vous aurez du mal à partir, croyez-moi, Philippe.
Ça, je crois que François Claude ne serait pas d'accord avec vous sur Essaouira.
Non, bien sûr. Non, mais très, Ifni, bien sûr, et très, très bien aussi. Essaouira, c'est plus l'ambiance multiconfessionnelle et l'espèce de douceur qu'il y a dans cette ville par rapport à une certaine dureté qui peut être ressentie dans d'autres médinas. Mais l'adresse plus au sud est magnifique, je confirme.
Merci à tous pour nous avoir guidés comme ça à travers ce Maroc merveilleux. Vraiment, on a envie de partir maintenant. Lundi, on continue le voyage. Je vous emmènerai au pays, un pays vraiment fascinant. Je pense que c'est une des plus belles destinations de la planète. Je vous emmènerai en Bolivie, dont la capitale culmine à 4000 mètres d'altitude. C'est aussi le pays de la montagne d'argent de Potosi. C'est aussi le pays du plus grand désert de sel du monde. C'est tout à fait incroyable comme destination et c'est très différent du Maroc. Et puis en première heure, nous irons dans le Dauphiné, car c'est l'écrin de verdure. C'est le pays de la chartreuse et du gratin dauphinois. Évidemment, tout ça lundi. On remercie bien sûr chaleureusement chaleureusement toute l'équipe, Alice Bluzet, Lorena Martin, Armel Thiberge à l'éditorial, Jérémy Hébert à la réalisation. Voilà, le chameau, c'est lui. Je vous dis à lundi, dans un tout petit instant, le grand journal du soir, avec vous, François.
Nous sommes là, le chameau qui blatère derrière moi. Entendez, passez un bon week-end, et en tout cas, pour ceux qui ne partiront pas grâce à vous, on est déjà un peu en week-end et en voyage, Philippe.
Absolument, merci François. Il est là, on vous le laisse, hein, le chameau, gardez-nous-le.